Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Microsoft n'a jamais été aussi près de racheter Activision Blizzard, mais il y a des plot twists. On va aussi parler de Metacritic qui dévoile ses 20 jeux les mieux notés de la première moitié de l'année. On va parler de vieux FPS et de FPS plus récents également. Peut-être un peu de Baldur's Gate 3. Bref, un programme très chargé, très bien rempli. C'est tout de suite dans le rendez-vous jeu. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le rendez-vous jeu, l'émission qui vous résume l'actualité du jeu vidéo de la semaine passée. Comme tous les ans maintenant, ça devient une tradition l'été, Patrick me laisse les clés de sa maison et donc j'ai le plaisir, un peu la pression à chaque fois de présenter le rendez-vous jeu à sa place, mais je sais que tout va bien se passer puisque je suis avec la crème de la presse papier, de la presse papier. Oui, ça fait. Je sais que c'est un mot des fois qu'on entend un peu de, malheureusement de plus en plus rarement, puisque j'ai le plaisir d'avoir Florian. Je commence par toi, Florian, parce que t'es dans l'ordre sur Discord. Donc,
D'accord. Et bien, bonjour à tous, enchanté.
Florian alias Furolite, hein, vous le connaissez peut-être, vous l'avez peut-être lu dans Canard PC Hardware, tu es le nouveau. Maintenant, ça fait 6 mois quand même. Donc tu
ça
es
fait
le,
6 mois, oui, quand même.
Tu es rédacteur en chef de Canard PC Hardware. Donc, merci de venir. Ça me fait très plaisir de t'avoir.
Merci à toi pour l'invitation, JK. C'est flatteur.
Et oui. Et autre représentante, fière représentante de la presse papier, on a Sophie. Sophie Krupa. Salut, Sophie.
Bonjour, Jean-Clébert. Comment ça va?
Bah oui, ça va très très bien. Pareil, je pense que les gens te connaissent aussi, peut-être. Hein, déjà vous êtes déjà venus tous les deux dans le rendez-vous jeu, je crois, au moins une fois à chaque fois.
Ouais.
Sophie, toi, tu es présidente de Wildfire Media, hein, cette belle société qui édite notamment le magazine JV.
Ouais, et, c'est chouette dit comme ça, hein, c'est stylé.
Voilà, t'as vu une présidente. Ouais,
c'est je suis directrice de publication, mon gars.
Directrice de publication, exactement. Ouais. On en parlera un petit peu à la fin de l'émission, évidemment, de ce que vous faites, actuellement. On va tout de suite se lancer dans le cœur de l'émission, puisqu'il y a quand même pas mal d'actu. Parce que je vous avoue un truc, quand j'ai commencé à préparer l'émission, je me suis dit, oh, c'est le mois de juillet, franchement, c'est calme, de quoi on va parler, etc. etc.
Oh, le naïf.
Et le naïf. Et évidemment, il y a 2 jours, j'avais oublié que le feuilleton Activision Blizzard et Microsoft n'était pas terminé. Franchement, là, je pense qu'on est proche du season, enfin, on est proche de la fin du season final et peut-être de quasiment notre dernier épisode, on sait pas. Mais il y a quand même des twists de dernière minute puisque, au dernier numéro avec Patrick, il y avait toujours ce recours de la FTC, donc aux États-Unis, qui demandait à ce que le rachat soit bloqué. Et ce qui se passe, c'est que la Cour fédérale a débouté la demande de la FTC. Donc la FTC a officiellement perdu. Son recours n'est pas validé. Ce qui fait que techniquement, depuis 2 jours, Microsoft peut absorber Activision Blizzard King. Mais donc, on s'est dit, bon, là, ça y est, c'est bien parti, etc.
Pour être très précis, il y avait une suspension qui restait de toute façon effective jusqu'au 15 juillet.
Jusqu'au 15 juillet, exactement.
Mais étant donné que la FTC donc, a perdu son recours et donc, quelque part, n'a entre guillemets pas le droit de vraiment poursuivre, parce que ce n'était pas vraiment un procès encore, mais donc la FTC n'a pas vraiment le droit de poursuivre en justice Microsoft et Activision Blizzard pour contester le rachat. Du coup, techniquement, à partir du 15 juillet, le rachat peut se faire, sauf que, comme tu le disais, plot twist.
Bah, sauf que plot twist, parce que, alors, y a en plus, entre-temps, la CMA, donc l'équivalent de la FTC au Royaume-Uni, qui elle aussi bloquait le rachat, a dit finalement, on est prêt à discuter avec Activision Blizzard, mais bon, on va quand même essayer de bloquer. Enfin, ça devenait compliqué, mais bon, le Royaume-Uni, on va dire, c'était relativement secondaire pour Microsoft. Sauf que le plot twist, effectivement, on a appris ce matin, enfin là, en me levant, que finalement, la FTC faisait appel de ses décisions, alors qu'en plus, c'est quelque chose qu'ils font très rarement, hein, apparemment. Alors, je dis ça, tu vois, je dis ça parce qu'en plus, moi, j'essaie de résumer tout ça, je suis pas spécialiste de ce genre de sujet, donc voilà, c'est pour ça que, heureusement, Florian, tu rajoutes des précisions parce qu'on essaie de faire au mieux. Je vous rassure, il y aura probablement Kassim dans une prochaine émission qui suit le sujet. Vous connaissez son appétence sans doute pour ce sujet qui va beaucoup mieux résumer que moi. Et donc, entre-temps, donc, la FTC a décidé de faire appel de cette décision pour bloquer quand même ce rachat, parce qu'on rappelle quand même qu'il y a une date butoir qui est très importante, c'est la date du 18 juillet, qui est la date, en fait, à laquelle Microsoft devra renégocier le rachat, le prix du rachat, avec Activision Blizzard. Donc, c'est une date extrêmement importante. Donc, pour Microsoft, ils ont tout intérêt à ce que ce rachat soit fait et signé avant le 18 juillet, parce que sinon... ils vont sans doute devoir revoir leurs chiffres à la hausse. On rappelle quand même que c'est 68,7 milliards de dollars, je crois, le rachat.
60, quasiment 70 milliards, ouais.
C'est ça. C'est quand même
monstrueux. Une paille, t'en fous rien.
Une paille, voilà. Donc, c'est intéressant. C'est-à-dire que, en fait, là il y a plusieurs pistes qui se dessinent pour Microsoft. Soit, ils concluent quand même la vente. En disant franchement j'en ai ras le bol à la FTC tout ça, on conclut la vente et ensuite on voit comment on fait, quitte à éventuellement faire une négociation par rapport au Royaume-Uni, notamment soit se retirer temporairement du marché, soit trouver un distributeur pour leur plus grosse licence. Il y a plusieurs options, quoi. La vérité, c'est que si parce qu'en fait on n'est pas sûr que l'appel en plus de la FTC soit validé, et ça normalement on va savoir d'ici 48 heures.
Ce qu'il faut peut-être préciser pour les auditeurs, c'est que là, on enregistre donc le jeudi 13 juillet.
Exactement.
Et du coup, on est vraiment, comme tu le disais tout à l'heure, en plein dans le season final, là. On voit les événements se dérouler en direct devant nos yeux. On n'a pas encore la conclusion au moment où on vous parle.
Non, c'est ça.
C'est ça qui est un petit peu compliqué, là, dans la position dans laquelle on est.
Ouais, c'est ça. Tu vois, moi entre hier, où j'ai commencé à mettre des liens dans mon conducteur, et je me suis dit, bon, voilà, ça, on va pouvoir parler de ça. Voilà, il s'est passé encore plein de trucs. Donc, c'est pas impossible que lundi, par exemple, le rachat soit effectif, que Microsoft est bel et bien absorbé Activision Blizzard.
T'as pas un petit jingle pour mettre en milieu d'émission, tu sais, un gros point rouge sur lequel t'appuies et que... on vient d'apprendre que Microsoft... a racheté Activision, ouais. Microsoft a racheté Disney, Microsoft a racheté l'Europe.
Et chute à l'arrière du peloton.
Microsoft a racheté l'Angleterre.
Tu sais que là, en vrai, tout le monde s'y prépare, parce que le Nasdaq a commencé déjà à émettre des communiqués en disant que le titre Activision Blizzard allait disparaître au profit de... Parce que si Microsoft rachète Activision Blizzard, tu ne pourras plus acheter d'actions Activision Blizzard. Donc, là, Nasdaq commence déjà à préparer ses communiqués de presse, etc. Donc, globalement, je pense que dès lundi, vous pourrez jouer à Diablo 4 dans le Game Pass, et ce sera bon. Ça, par contre,
yes, moi, j'attends que ça.
Je sais.
Alors, je ne sais pas si ce sera tout à fait aussi rapide.
Non, ah bon, je pensais voir l'intégralité de Call of Duty arriver.
Enfin, si, bien sûr. Bien sûr.
Ils ont juste quoi, ils ont un dossier à mettre dans une Dropbox et puis c'est bon.
Oui, c'est.
Faut arrêter de nous faire croire.
Je me dis que les plans sont prêts. Mais en tout cas, c'est un feuilleton hyper intéressant, parce que le rachat a quand même été annoncé début 2023. Début 2022, je dis n'importe quoi, début 2022, donc ça a pris un an et demi. Et c'est intéressant, parce que j'ai vu un tweet, je ne sais plus si c'était un journaliste ou un analyste qui disait ça. C'est vrai que le move de la FTC n'était pas si bête, parce que même si au final ils ont perdu, peut-être qu'ils vont gagner leur appel, mais il y a quand même peu de chance. C'est quand même un move intéressant, parce que c'est quand même un truc qui risque de refroidir pas mal d'autres grosses sociétés pour faire de très gros rachats, parce que vu. Toutes les embûches qu'ils ont dû enjamber là depuis un an et demi, Microsoft, est-ce que ça va pas refroidir un peu d'autres boîtes, de racheter d'autres grosses boîtes? Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça.
Il y a plus de boîtes. Enfin, il reste qui en fait maintenant qui pourrait être éventuellement racheté? Cette partie d'Agario commence à devenir.
Ouais, dans le jeu vidéo, il y a encore que bien sûr, disons qu'il y a une concentration d'énormes, oui, parce qu'on c'est vrai qu'on se focus souvent sur les principaux, Microsoft, Sony, mais on oublie des boîtes comme NetEase, comme Embracer Group, qui sont des espèces de monstres énormes qu'ont racheté des studios pour des sommes bien évidemment moindres, mais qui sont quand même monstrueux. Effectivement, au bout d'un moment, il n'y aura plus que les très gros qui vont manger les très gros, quoi. Donc, évidemment qu'une fois que Microsoft aura racheté Activision Blizzard, on les imagine, enfin, ils ne pourront pas racheter Ubisoft ou Electronic Arts. Là, ça risque d'être compliqué.
Ah oui, voilà. Ouais.
Mais en fait, il y a plusieurs, pour moi, perspectives à prendre là-dessus. La première, c'est qu'il faut bien comprendre que la FTC, aujourd'hui, qui est dirigée par, j'ai plus le nom de la personne, désolé, mais c'est quelqu'un qui a été placé là par le président des États-Unis, donc Joe Biden. Voilà, c'est quelqu'un qui a des positions politiques qu'elle n'a strictement jamais cachées, qui sont contre les phénomènes de consolidation massive qu'on voit absolument partout et dans toutes les industries. Après, au-delà de ça, le rôle de la FTC, déjà, c'est de surveiller, donc non pas des histoires de consolidation excessive ou quoi, mais surtout des histoires de concurrence derrière, de vérifier que la concurrence est maintenue à chaque fois qu'il y a un gros rachat comme ça. Et aussi, c'est très important à dire, même si là on l'a bien compris, ce n'est pas une commission qui prend des décisions. C'est une commission qui fait valoir des inquiétudes, qui fait valoir ses observations, mais qui après laisse un juge décider. Et aujourd'hui, on voit que cette tendance à la consolidation extrême, nous, de notre petite lentille, voilà, on voit le jeu vidéo qui est évidemment le sujet qui nous intéresse le plus, mais c'est quelque chose qui se voit absolument partout. L'exemple le plus frappant, ça a évidemment été Disney, en particulier quand ils ont racheté la Fox, et qui devient aujourd'hui ce conglomérat absolument dantesque, la taille du truc.
Bah, ils arrivent à faire passer Warner pour un petit artisan du quartier, quoi.
Oui, c'est ça, exactement.
Et, c'est clair. Non, mais c'est sûr. Et après, il peut y avoir quand même des rachats qui capotent. Par exemple, il y a eu le cas Nvidia ARM, tu vois.
Oui, c'est sur celui-là que j'allais, ouais.
Voilà.
Mais du coup, voilà, tu vois, ce qui a été vraiment ce qui a joué en leur faveur dans le cas. Et pour le cas de un truc à dire d'ailleurs, pour le cas de Nvidia ARM, techniquement, c'est pas la FTC qui a réussi, entre guillemets, à faire capoter le truc, c'est la CMA, donc l'organisme anglais.
Oui, c'est vrai. C'est vrai
qu'on voit les Anglais. Voilà, ils sont quand même très puissants. Bah, en plus, ARM est une société britannique, donc forcément. Voilà.
Oui, forcément, ça joue un peu.
Mais tout ça pour dire que oui, l'enjeu qu'il y a vraiment derrière tout ça, pour certains, c'est un enjeu juste d'éviter que cette création de conglomérats trop gros qui font qu'au bout d'un moment, l'industrie mondiale ne ressemble plus à rien. Mais le rayon d'action de ces institutions, c'est vraiment la concurrence. Donc dès que tu as un truc... Dans le cas de Nvidia, c'était extrêmement simple à comprendre pourquoi ce rachat a pu être bloqué. C'est parce que les processeurs à architecture ARM, aujourd'hui, c'est utilisé littéralement partout, par tout le monde, dans l'électronique. Donc voilà, si Nvidia, qui est lui-même un acteur de ce marché-là, qui fabrique lui-même des puces en OEM, tout ça, possède tous les brevets, toutes les propriétés intellectuelles qu'il y a derrière l'architecture ARM, c'était un bazar sans nom. Donc là, oui, quelque part, évidemment que le truc allait réussir à être bloqué. Mais maintenant, du point de vue du jeu vidéo, typiquement, un groupe comme Embracer, qui est en train, peut-être moins maintenant, parce que là, ils sont un petit peu dans la mouise financièrement, mais un groupe qui était en train de grossir à vue d'œil, d'avaler tout sur son passage, la situation dans laquelle il est Embracer, c'est qu'il n'a pas vraiment de concurrence en face de lui. Il est en concurrence contre qui, Embracer? Donc à partir du moment où il n'y a pas de situation de concurrence, d'un coup, toutes ces organisations, la CMA, la FTC et tout ce que vous voulez autour du monde, l'Union Européenne, tout ça, n'ont plus vraiment de leur mot à dire sur la situation.
Donc, Embracer, pour moi, c'est un tout petit peu différent parce que Embracer, notamment, ils ont racheté énormément de studios qui peut-être j'ai dit n'importe quoi, mais je sais maintenant qu'on parle l'ampleur d'un Ubisoft en termes de taille de production. Tu vois, dans leur écurie, ils ont beaucoup de sociétés qui font plus du double A, tu vois, qui peut très bien se vendre, hein, tu vois, mais c'est pas forcément des énormes blockbusters à 200 millions de budget, tu vois, qui sortent de chez Sony, de chez Ubisoft.
Ouais, ça c'est vrai dans le cas du jeu vidéo, mais après, tu vois, les gars, ils ont littéralement racheté les droits du Seigneur des Anneaux, là, je sais plus quand, enfin bon. Et puis on rappelle aussi que la raison pour laquelle Embracer est dans la mouise aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont un deal avec une entreprise dont du coup on ne connaît pas l'identité, qui est tombée à l'eau, mais c'était un deal à 2 milliards de dollars. C'est pas Activision Blizzard, mais c'était quand même pas un petit truc non plus.
C'était nous, j'avoue. C'était Wildfire Media.
Ils ont failli racheter. Je crois qu'il y avait une offre avec fusionner avec Canard PC, avec Pass No Stop.
On
n'a pas réussi à se mettre d'accord.
Alors que franchement, vous auriez négocié 1 milliard, vous auriez dit OK.
Mais non, tu sais, il faut. Ouais, ouais. Il faut savoir se vendre à sa juste valeur.
Savoir se vendre, c'est ça. Oui, et juste pour moi de mon côté, un peu pour conclure, je ne sais pas si Sophie, tu avais quelque chose à rajouter.
Non, vous dites des choses très, très intelligentes depuis tout à l'heure, et moi, je dis des blagues. Écoutez, je suis désolé, vraiment un sujet que je ne maîtrise pas du tout.
On a tous notre rôle. En fait, moi, je suis le mec un peu approximatif. Toi, tu fais les blagues, et Florian, c'est le gars qui va essayer d'aplanir le truc, et voilà. C'est ça.
Non, juste merci pour dire
que Microsoft, depuis un an et demi, ils ont quand même été assez forts, assez malins, pour quand même arriver à convaincre globalement tout le monde que mais vous inquiétez pas, regardez Call of Duty partout, on est vraiment, on a perdu la guerre des consoles, de toute façon, nous on est tout petits par rapport à la concurrence, et ils ont réussi leur coup quand même, parce que globalement...
Microsoft qui arrive à faire croire qu'ils sont tout petits et tout mignons, quoi.
Très sincèrement, à titre personnel, enfin, l'an dernier et pendant à peu près 95% du temps qu'a duré cette histoire, j'aurais été limite prêt à parier de l'argent pour dire que le rachat allait pas se faire. Là, aujourd'hui, bon, honnêtement, même l'appel de la FTC, il a quand même peu de chances d'aboutir. On va dire que le truc va se faire à 95%. Moi, franchement, la vie, j'aurais parié là-dessus. Mais jamais.
J'avoue que ça a été long, mais c'est vrai que on est vraiment passé par plein de phases différentes dans cette saga. Verdict, on verra, mais peut-être que la conclusion de tout ça va se terminer là dans les prochains jours. Et on pourra enfin peut-être passer à autre chose et arrêter d'en parler à chaque émission.
Au point où on en est, moi je m'attends encore au moins 15 rebondissements.
peut-être. Ouais, mais du coup, s'ils doivent renégocier le contrat, ça risque d'être vénère parce que quand ils ont annoncé le rachat, c'était quand même une période où Activision Blizzard était en pleine mouise avec tous les scandales qu'il y avait, avec plein de choses. Donc, je pense qu'ils ont négocié un prix relativement intéressant pour eux. Là, ça va un peu mieux pour Activision Blizzard d'une manière générale. Donc, tu vois, ça se trouve, ils vont se prendre quelques milliards en plus sur la facture Microsoft, mais bon. Sophie, oui.
Oui, non, j'ai dit quelques milliards en plus. Est-ce que ça sera si. C'est quoi leur vrai. C'est ça le vrai motif derrière. Est-ce qu'il y a une vraie question de rentabilité? Enfin, j'imagine que oui, quand même. Mais il y a quand même un côté un peu. J'allais pas dire politique, mais il y a un vrai intérêt pour eux à posséder. Enfin, il y a un côté symbolique en plus, quoi. C'est ça que je veux dire.
Ah oui, ouais, non, mais c'est évident. C'est un truc hyper puissant parce que au-delà de la puissance des licences qui sont encore là aujourd'hui, que Call of Duty, Diablo, etc., etc., il y a vraiment une sorte de asseoir une position qui est monstrueuse.
Ouais, c'est ça.
Alors, de toute façon, on la supporte.
Un truc aussi qu'il faut préciser là-dessus, le rachat, c'est Activision Blizzard King. Et la partie King a une importance monumentale, parce que c'est aussi des choses dont on se doutait déjà, mais là, on en a maintenant la certitude en ayant vu plein de documents confidentiels qui ont été révélés dans le cadre, justement, des discussions avec la FTC. Et l'intention de vraiment la stratégie de Microsoft, bon, ça tout le monde l'avait compris, mais c'est le Game Pass. Et là, maintenant, ils ont un Game Pass PC, ils ont un Game Pass console, et ils veulent un Game Pass mobile.
Ah oui.
Et voilà. Et pour ça, King va être encore largement plus important en fait que n'importe quel Call of. Donc
carrément.
Donc ils peuvent se permettre de dire, mais oui, rassurez-vous, on n'aura pas l'exclu Call of, il y aura bien des Call of sur, comment ça s'appelle déjà, PlayStation 5, oui, pas de problème.
Même sur Switch, en fait, n'oublions pas qu'ils sont prêts
sur Switch, il y aura du Call of sur Switch.
Sur 3DS, j'espère. Mais donc limite, ils peuvent se permettre de passer pour des beaux princes, là où...
Oui, bien sûr, de toute façon, ils n'ont pas le choix.
C'est totalement la stratégie qu'ils sont en train de jouer depuis des mois, de toute façon.
Ouais, c'est sûr. Si on parlait un peu de jeux vidéo, si on faisait un peu des petits tops, un petit top là, ce
serait sympa. Non, je préfère parler d'argent, moi.
C'est vrai qu'on aime l'argent.
Un top de notre argent préféré. Alors moi, Patrick, mon argent préféré.
Patrick Belger aime l'argent, donc on est dans son émission. Évidemment, il faut absolument. Il est le premier à le dire, donc ça va.
On est dans une émission de droite, c'est ça? Attends, pardon.
Attention. ça va, on va encore avoir des problèmes.
Pardon.
Je voulais quand même vous parler un petit peu de Metacritic. Alors, Metacritic, bon, on sait que c'est pas toujours parfait en termes de fiabilité sur les notes, etc. Mais c'est quand même intéressant puisqu'ils ont publié leurs 20 jeux les mieux notés sur la première moitié de 2023, donc depuis le 1er janvier jusqu'à maintenant. Et donc ils ont pris des critères assez précis. Il fallait que ce soit qu'il y ait au moins 7 reviews professionnelles. C'est pas les jeux, c'est pas les user scores, les notes des utilisateurs. Et le top est plutôt intéressant, je trouve. Je vais rapidement le faire dans l'ordre décroissant plutôt. Je vais commencer par le dernier et on va monter jusqu'au premier. Donc je vais vous name-dropper les jeux puis après on en parlera. À la 20e place, c'est un jeu qui s'appelle Double Blade que je ne connaissais pas, qu'à 83%. Ensuite, on a Edge of Wonder 4, on a Legend of Galeria, The Moon Society.
Labyrinth of Galeria.
Oui, Labyrinth of Galeria. J'ai dit quoi ? J'ai dit The Moon, c'est ça ?
T'as dit Legend of Galeria.
Ah oui, pardon. Legend of Galeria, ça aurait pu être n'importe quel autre JRPG, c'est sûr. Qui est un jeu qui ressemble
Tales of Galeria,
qui ressemble à une sorte d'Etrian Odyssey, voilà. Cassette Beast, qui était l'espèce de Pokémon-like, dont je n'ai pas joué. Après, on arrive dans des jeux, entre guillemets, un peu plus connus, dont on a plus entendu parler. Donc, Hogwarts Legacy en 16e place. The Murder of Sonic the Hedgehog, grosse surprise, en 15e place. Octopath Traveler 2 en 14e place. A Space for the Unborn, qui est un très bon jeu indé, qui est fait par des Indonésiens, un point and click, super point and click. Florian, tu vas être content, en 12e place, c'est Humanity, qui est à 85% de métacritique. 11e place, c'est Paranormal Sight, The Seven Mysteries of Hojo, qui est un visual novel. En 10e place, Star Wars Jedi Survivor, et là, on arrive dans le top 10, donc. Alors là, dans le top 10, on a quand même dans les groupes quasiment que des gros triple A, avec quand même quelques surprises. Diablo 4 en 9e place, Hi-Fi Rush en 8e place, Theaterism Final Bar Line, donc le jeu de rythme basé sur l'univers de Final Fantasy. À la 6e place, Final Fantasy 16. 5e place, Dead Space, le remake. Et là, on arrive sur une sorte de prédominance du Japon et de Nintendo, avec 4e place, Street Fighter 6, 3e place, le remake de Resident Evil 4. 2e place, Metroid Prime Remastered, figurez-vous, qui a 94 de métacritique. Et grande surprise, en première place, évidemment, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, qui a quand même un métacritique de 96. Et 96, c'est quand même très très rare d'arriver à un score aussi haut. Du manière générale,
c'est moins bien que Breath of the Wild.
C'est un peu moins bien.
Breath of the Wild avec 97. Alors, c'est un échec.
On vend tout. Nintendo, la catastrophe. Nintendo va mourir.
C'est ça. Mais d'une manière générale, c'est vrai que c'est assez rare d'arriver à Metacritic au-dessus de 90. Et ça commence à la 4e place seulement, tu vois. Avec Street 6, Resident Evil 4. Et je trouve que dans ce top, déjà, il y a quand même un retour en force pour le coup du jeu vidéo japonais. Parce qu'il n'y a pas que des jeux japonais, mais il y en a quand même beaucoup. Donc ça fait plaisir parce que mine de rien, le jeu vidéo japonais est bien bien remonté en termes de qualité, en tout cas ces dernières années. Je sais pas si vous avez un commentaire vous à faire sur ce top, puisqu'il y a des trucs que vous trouvez scandaleux ou des jeux que vous auriez aimé voir.
C'est bien de voir des nouvelles licences, des choses un peu nouvelles comme Zelda ou Metroid ou Resident Evil ou Street Fighter. Je pouvais pas m'en empêcher, mais non, en vrai c'est des super jeux. Oui, c'est pas très
en vrai. En vrai, quand tu mets le top 6, c'est vrai que c'est soit des très vieilles licences, soit des remasters, Metroid Prime. Il y a quand même trois remakes, remasters dans le top 1. Metroid Prime, Dead Space et Resident Evil. C'est quand même assez fou. Enfin, tu dis, on est sur une année. Alors qu'en plus, moi, c'est des jeux que j'adore, que j'ai adoré faire cette année. Hein. Et je suis quand même content de voir aussi des jeux indés qui ont quand même une. Parce que ce qui veut dire, si mine de rien, tu vois, ces jeux indés qui ont des bonnes notes, je pense à Space for the Unbound par exemple, qui est quand même un jeu qui est pas très connu, et il a quand même eu une sorte de rayonnement critique assez fort, alors que c'est un jeu un peu technique qui vient d'Indonésie, tu vois, c'est un truc qui aurait pu passer complètement inaperçu. Et je trouve plutôt cool que on arrive quand même à avoir un rayonnement médiatique de ce genre de jeu. Alors il y a d'autres jeux que j'ai adorés qui sont pas dans le top ou des notes moins bonnes, mais voilà, donc je sais pas si vous avez vous et justement tout ça, c'est surtout l'occasion de parler un petit peu peut-être faire un semi-bilan de l'année, peut-être vous parler des jeux qui vous ont le plus marqué, qui sont en stop ou pas de l'année. Donc je sais pas si
moi Zelda, Zelda, incroyable. Incroyable. Et jeu,
t'es tombé dedans aussi, j'imagine.
Ah oui, ouais. Je saurais même pas quoi te dire qui n'a pas déjà été 10 000 fois, mais
certes.
La place est largement méritée et je pense que c'est assez unanime.
Ouais.
Il y a bien sûr des critiques où moi je me suis arraché les cheveux comme tout le monde sur ces putains de sages qui se foutent n'importe où et que tu leur trébuches dessus dès que tu veux bouger. Donc oui, évidemment, c'est pas, y a des choses à dire, mais ça reste un monument incroyable.
Ouais, ouais, un monument incroyable sur en plus un jeu qu'on a. Enfin, on se doutait que ça allait être un bon jeu. Il y avait pas de doute là-dessus, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'interrogations sur le côté Reddit en fait, parce que c'est plus ou moins la même map, parce que c'est la suite directe, et effectivement, ils ont réussi à sublimer un truc. Il y a plein de gens, mais la preuve, hein, Florent, tu l'as dit, mais Breath of the Wild a 87 de métacritique, il y a quand même plein de gens qui te disent encore, je le préfère Breath of the Wild, peut-être parce que le choc qu'a été Breath of the Wild à l'époque, forcément, n'est pas reproduit avec Tears of the Kingdom.
Perso, je trouve limite que de toute façon, la comparaison entre les deux n'a pas de sens. Aujourd'hui, les deux forment vraiment un diptyque pour moi.
Ouais.
J'ai dire oui, enfin, de toute façon, aujourd'hui, la jeunesse du truc, on le sait, Tears of the Kingdom, à la base, c'était un DLC qui juste a pris des proportions complètement dantesques, et du coup, ils se sont dit, bon, bah, ok, on y va, on fait all-in, et puis finalement, ce sera un jeu complet, ce sera vraiment la suite de Breath of the Wild. Mais dans l'absolu, franchement, pourquoi pas? Je veux dire, c'est un jeu de façon qui déborde tellement d'idées, qui déborde tellement de trucs de partout que oui. Il n'y avait même pas besoin, je pense, de mettre autant de nouveautés dans Tears of the Kingdom pour avoir assez de matière, pour avoir un nouveau jeu complet. Donc voilà, oui, effectivement, évidemment que le choc de Breath of the Wild, tu ne l'auras jamais, bah, c'est un peu le principe. Maintenant, je pense que, en particulier pour une série comme Zelda, qui reste quand même une série vachement traditionnaliste, une révolution du niveau de Breath of the Wild, tu peux pas avoir ça tous les 6 ans. Rester rarissime. Donc voilà, je pense que peut-être que ça se trouve, tu vois, dans 3 mois, enfin pas dans 3 mois, non, mais dans 5 ans, tu vois, il y aura encore un nouveau Legend of Zelda qui sera toujours un peu la même formule open world, alors peut-être pas sur la même map ce coup-ci. Mais tu vois, et je me dis, ouais, c'est peut-être une tendance qui va durer pendant 15 ans, tu vois, et au même titre qu'aujourd'hui, on adore tous les débats sur c'est lequel votre Zelda 3D préféré. Voilà, tu vois, il y aura une nouvelle ère qui aura été définie comme ça, et puis dans 15 ans, on sera tous à se demander c'est lequel votre Zelda en open world préféré. Et puis voilà, tu vois, ce sera très rigolo.
Ouais, mais surtout que cette voix-là, effectivement.
Ah ben bien sûr, hein, ça c'est très important, hein, sinon ça marche pas, hein.
Mais tu sais que j'essaie de revenir un peu, de recentrer le truc. Mais c'est vrai qu'en plus, Nintendo a confirmé que, évidemment, cette formule-là était aujourd'hui la nouvelle norme pour les Zelda, on va dire, canoniques, triple A, les gros budgets, etc. Donc, est-ce qu'ils vont alterner des. Parce que ça prend 7 ans à faire un truc comme un jeu comme ça, tu vois. 5 ans, si on veut un peu rusher le truc, quoi, entre guillemets, et c'est pas le genre de Nintendo. Donc, entre-temps, ils vont peut-être miser sur d'autres Zelda, soit des spin-offs, soit des remasters, parce qu'ils ont un grand plein de Zelda.
Ils pourront toujours faire des trucs du genre Link Between Worlds ou des machins comme ça, des Zelda de plus petite dimension, voilà, peut-être en 2D, tu vois. Enfin, pourquoi pas?
Je suis même étonné qu'ils n'aient pas ressorti Wind Waker, qu'ils avaient sorti sur Wii U et sur Switch.
Bah oui, Wind Waker et Twilight Princess, les versions HD qu'on attend toujours, effectivement. Ouais, elles étaient très très bien. Il n'y a aucune raison qu'elles restent coincées sur Wii U.
Sachant que, alors là, on focus beaucoup Nintendo, mais on se doute que l'annonce de la suite de Nintendo Switch ne devrait pas trop tarder. Quand je dis pas trop tarder, c'est pas forcément là dans un mois, hein, mais.
Ce sera pas dans cette année fiscale, donc pas avant mars 2024.
Voilà, mais on est quand même beaucoup plus proche, évidemment, de la prochaine génération de Switch que
oui, ça c'est clair,
que ce que l'on était. Donc il va falloir quand même avoir un line-up, parce que souvenez-vous que quand la Switch est sortie, ils avaient Zelda, Breath of the Wild. Est-ce qu'ils auront, ça va être compliqué. Alors, à part Metroid Prime, mais Metroid Prime, même si je l'attends énormément, que je parle du Metroid Prime 4, je vois pas. C'est qui est peut-être un jeu qui pourrait faire au lancement de la Switch 2.
Ça aura jamais le même poids qu'un Breath of the Wild.
C'est ce que j'allais dire. Commercialement parlant, ça n'aura clairement pas le même impact. Donc à voir. Bon, après, on est en train de dévier sur un sujet Nintendo là, mais c'est un jeu qui a tellement été important cette année. Ouais, c'est sûr, c'est tentant.
Mais
vas-y.
Non, juste, du coup, moi, je voulais juste reprendre un petit peu de recul, justement, par rapport à cette liste. Moi, il y a deux trucs que je note dessus. Bon, alors, effectivement, on en a déjà parlé, c'est le côté, bon, tu regardes le truc, tu dis, waouh, super original, l'industrie du jeu vidéo en 2023. Après, moi, je trouve ça quand même presque un bon signe, en fait, de voir que le remake de Resident Evil 4 et de Dead Space sont placés aussi haut, parce qu'on sait que voilà, ces remakes, ces remasters, tout ça, y a forcément une, comment dire, une petite condescendance qui va avec, où on se dit, ils savent plus faire des nouveaux jeux aujourd'hui, machin. Mais très sincèrement, pour avoir fait les deux méritent leur place. Mmh. J'ai quand même, moi, j'ai quand même vraiment l'impression que c'est des jeux qui sont témoins du fait que, bah, peut-être qu'il lui a fallu beaucoup de temps, mais aujourd'hui, l'industrie du jeu vidéo a compris comment ça se faisait un bon remake, en osant quand même prendre un peu de risque, en trouvant vraiment le bon équilibre entre fidélité à l'original et savoir renouveler l'expérience, mettre à jour le gameplay, la narration.
C'est des vrais remakes, ouais, pas juste des remasters avec où on a juste mis des jolis graphismes. C'est des vrais remakes dans le bon sens du terme, ouais complètement.
Ouais, c'est des jeux qui moi me donnent pas du tout envie de maintenir cette posture un peu cynique, enfin pas cynique, c'est pas le mot, mais un peu blasé qu'on peut avoir au principe même du remake et du remastered. Et puis l'autre chose, bah, c'est un truc que tu as dit aussi, moi, ça me fait plaisir de voir à quel point l'industrie du AAA s'est retrouvée. J'ai l'impression qu'il y a eu des années vraiment difficiles où on avait l'impression que les AAA, ça partait, ça faisait vraiment n'importe quoi. Il y avait des tendances, l'idée qu'un AAA, ça pouvait plus être un jeu solo, ce genre de truc. Et là, tu
c'est
vois
vrai
aujourd'hui
qu'il n'y a aucun jeu service dans Stop.
Alors oui, bon, déjà.
Ouais.
Non, mais dans tous les AAA qui sont sortis là, depuis le début de l'année 2023, il y a eu quoi de décevant ?
Il y a eu de vraiment décevant.
À la limite, Redfall, mais je ne sais même pas si on peut appeler ça un AAA.
Bah si, parce qu'en termes de budget, ça l'est, mais oui, effectivement, moi je pense que Redfall peut être considéré comme un AAA décevant,
c'est vraiment l'exception qui confirme la règle.
Ouais, ce
début d'année 2023, enfin cette première moitié 2023, je trouve quand même qu'elle a été assez exceptionnelle niveau qualité des trucs qui sont sortis. Je trouve ça quand même très très encourageant.
Bah ouais, enfin c'est évident, cette première année elle a été monstrueuse en termes de quantité et de qualité de jeux, que ce soit dans les jeux dans les AAA et aussi dans les jeux indés, parce qu'il y a énormément de jeux indés que j'ai adoré moi cette année.
Oui, en plus, bien sûr.
Et qui sont pas dans cette liste, et c'est un autre sujet, mais qui ne se vendent pas malheureusement, mais en même temps sortir un jeu indé cette année-là quand t'as des mastodontes à côté, waouh, tu vois, parce qu'en
t'as perdu d'avance, ouais.
Voilà, et surtout, on parle de jeux qui sont sortis, et je te parle même pas de ce qui va arriver en septembre, mais même en août. Hein,
on va en parler juste après, non ?
Voilà. Non seulement c'est des jeux très attendus, puis c'est des jeux qui te demandent un investissement de temps qui est monstrueux, tu vois. Donc, que ce soit Tears of the Kingdom, c'est juste monstrueux. Donc, il y a Diablo 4, tu vois, Final Fantasy 16, c'est des jeux qui prennent du temps, quoi. Malheureusement, quand t'as pas les reins assez solides en termes de marketing ou quoi pour essayer de faire un peu vivre ton jeu à côté, bah, tu passes quand tu n'existes pas. Quoi. Cette année, c'est à la fois une très belle année, je trouve, en termes de qualité de jeu, mais en même temps, c'est une année très compliquée.
Du coup, c'est une année qui est bouchée. C'est une année qui est complètement bouchée. Ouais,
ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, voilà. Est-ce que justement, on passerait pas un peu à la deuxième partie du sujet ? Parce que là, on a passé le premier semestre. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres jeux qui nous attendent là, d'ici la fin de l'année.
Et oui.
Petit tour de table, commençons par Sophie, par exemple. C'est quoi les jeux que tu attends le plus ? Alors, même si j'ai une vague idée, hein, parce que je te connais un peu.
Vas-y, dis, je te dis si c'est ça, vas-y.
Est-ce qu'il y a certains Baldur's Gate qui sort dans...
Ah non, jamais entendu parler. Oui, t'as vu, en plus, il sort début août. ils l'ont rallongé, ils l'ont rapproché. Ça. Mais oui.
Ouais, c'est ouf parce que... Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'effectivement, ils ont dit que c'était pas pour être... C'était pour éviter la confrontation en direct avec Starfield qui arrive début septembre. Mais voilà, donc Sophie, évidemment, si tu veux nous parler un petit peu de Baldur's Gate ou d'un autre jeu d'ailleurs, n'hésite pas.
Alors... rapidement sur Baldur's Gate, mais oui, il y a un autre jeu dont je voudrais vous parler. Mais oui, Baldur's Gate, ça fait combien de temps qu'il est en early access ? Ça commence à faire un bon moment, ouais, j'allais dire trois ans. Et je l'ai déjà dit dans d'autres émissions, mais j'y avais joué, moi, tout au début, vraiment, quand il est vraiment sorti, la toute première aventure, enfin, le tout premier segment qu'ils ont sorti au tout début de l'early access, et j'y ai pas retouché depuis. Et je m'y suis tenue, ça fait vraiment 3 ans que je vis en me bouchant les oreilles. Et là, j'ai tellement hâte qu'ils sortent. Alors j'ai quand même aperçu des trucs. J'ai vu la scène avec l'ours. Oui, je l'ai vu, bien sûr.
Voilà, bon bah. je l'avais placé en news après, mais on peut peut-être évacuer le truc là. C'est-à-dire que tu pourras effectivement avoir des romances dans le jeu, comme dans souvent les jeux BioWare, Baldur's Gate et par extension ce qui avait été fait dans les jeux BioWare à l'époque. Des romances, même des physiques, tu peux coucher avec certains de tes compagnons, dont un druide qui a la capacité de se transformer en ours.
Et tu peux choisir apparemment. Alors bon, je t'avoue, je sais pas trop quoi en penser. Écoutez, c'est bon. Le choix est possible. Je ne suis pas sûre que je le ferai. Écoutez, c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'était assez rigolo de voir cette séquence. Mais oui, moi je sais que ça y est, ça commence. On commence à voir des gens un peu le streamer, que ça commence un peu les gens commencent à se plonger dedans. Moi, j'attends, j'ai un peu de travail en ce moment, j'attends d'avoir mon temps, comme tu disais, c'est des jeux qui prennent du temps, et là je pense que vous me reverrez plus par contre à partir du moment où je vais le lancer.
Rendez-vous en septembre pour essayer d'en parler un peu dans cette
ça a l'air d'être d'une densité, je te dis, le peu que j'ai fait au moment où le tout début était sorti, je crois que là, il y avait juste le premier acte, et encore, il n'y avait pas tout. Il n'y avait pas tous les personnages, il n'y avait pas toutes les quêtes. Je trouvais ça déjà incroyable.
En plus, ils ont sorti. L'Ariel, le studio, a sorti des chiffres il n'y a pas longtemps. Alors, je ne les ai plus en tête, mais c'est 175 heures de cinématique, millions de lignes de dialogue. Alors, moi, en vrai, ça, c'est plutôt des chiffres qui me refroidissent un peu. Hein, parce que j'ai un jeu que j'attends, mais quand je vois ça, je me suis dit, mais j'en verrai même pas la moitié de ce jeu, quoi.
On verra. Ouais,
mais surtout que je pars en vacances deux jours avant. Merci, merci Lariane. Hein, donc à moins que et le problème c'est que ça tourne pas sur une console portable, tu vois, genre Steam Deck ou Roguelite. Donc ça tourne pas. C'est pas ça tourne pas. C'est que en termes de prise en main et sur un écran 7 pouces, c'est pas ouf quoi. Donc
obligé d'aller passer du temps avec ta famille, JK. Merde. Alors que tu pourrais jouer à Baldur's Gate.
je peux annuler mes vacances et je peux passer deux semaines chez moi plutôt que d'aller Bretagne, effectivement.
Bah oui, bien sûr, ta femme sera ravie, je pense. Ouais, c'est ça.
Fais le choix de la raison, JK.
C'est ça. Et l'autre jeu, Sophie, c'était quoi du
Et donc, un jeu qui sort le même jour, pas de bol.
Okay.
Un jeu indé qui s'appelle Stray Gods.
Ça me parle. Ouais.
Alors, le nom complet, c'est The Musical. Enfin, c'est une The Role Playing Musical. C'est un RPG visual novel comédie musicale. Parce que pourquoi pas.
Ça. C'est intéressant.
Et c'est surtout que c'est un jeu qui est développé par un studio qui s'appelle Summerfall Studio, qui a été fondé en fait par l'ancien comment on appelle ça ? Parce qu'évidemment, je m'étais pris des notes et je les ai pas sous les yeux parce que c'est pas grave. Attendez, je te retrouve ça. En fait, c'est par l'ancien scénariste principal de Dragon Age qui avait quitté les studios à l'époque pour fonder son propre studio. Et ça y est, il y a quelques années, le premier jeu donc, de ce studio sort, donc le 3 août, Stray Gods. Tu joues un personnage qui s'appelle Grace, qui est une femme a priori ordinaire, mais qui va se retrouver confrontée à des intrigues liées aux dieux anciens. En fait, tu assistes à la mort de Calliope, la dernière muse, la toute dernière muse. Elle se fait assassiner et tu vas être embauché par les dieux anciens pour enquêter sur cet événement. Incroyable.
Ça a l'air formidable, effectivement, et c'est marrant parce que ce soit dans le visuel ou même dans le concept, ça rappelle Fable, la bande dessinée. Parce que là c'est pas les personnages des fables, enfin des contes qui se cachent, c'est des dieux. Et visuellement, je trouve qu'il y a un très comics Fable. Le côté musical, j'attends de voir, j'avoue.
Il y a une démo, je sais pas si la démo est toujours disponible, mais à un moment, c'était pendant le dernier, tu sais, Steam Summerfest, il y avait une démo disponible. Et donc, on avait pu voir un peu à quoi ça ressemblait sur pied. Et c'est très très chouette, vraiment très très chouette, très bien intégré. Le casting vocal est incroyable. Il a déjà remporté des tu vois au festival Tribeca, il était dans la sélection officielle, ce genre de choses un peu arty, vois-tu. Je suis très très, très très très
et l'aspect RPG se traduit comment, c'est des combats tour par tour, un truc comme ça ou...
Ah non, je crois qu'il y a pas c'est pas du RPG, c'est du
c'est un truc narratif avec des choix.
Voilà, exactement, c'est du visual novel. Non, il y a
parce que, En fait, ils ont tagué, il y a un tag RPG sur la fiche Steam, donc je me disais, tiens.
Ah oui, bah, a priori, bah, en tout cas, de ce que j'ai vu, non. C'était vraiment des choix dans des...
Oui, c'est peut-être ça, le côté RPG. Des...
Bah, en fait, le role-playing musical, c'est du role, du role-play au sens... jeu de rôle, narratif, ouais, voilà.
Ok, ah bah écoute, celui-là, il me... Mais merci de l'avoir mis en lumière, parce que je n'avais entendu parler, mais je ne m'étais pas du tout intéressé au truc.
Giga Sosax, comme on dit dans le milieu.
Comme on dit dans... Bah oui, ça c'est...
Dans le jargon.
Exactement,
dans le jargon.
C'est validé.
Et le jeu, là, toute l'audio sera en anglais, hein, mais le jeu sera sous-titré en français. Donc, ouais. Voilà, accessible au plus grand nombre.
C'est cool. Donc ça sort le 3 août 2023.
Le même jour que Baldur's Gate.
Ouais, alors là, par contre, après, quoique, c'est deux jeux différents, mais ça fait encore partie de ces jeux indés qui, s'ils n'ont pas un minimum de... Alors, j'apprends qu'il y a un peu de hype autour du jeu, mais risque un peu de passer inaperçu, j'espère pas, hein, mais bon, on verra.
Ouais, j'espère aussi que ça aura, en tout cas, le succès que ça mérite, mais voilà.
Tout à fait. Florian, toi, tes top, tes jeux attendus, ça peut être deux jeux.
Oui, bah, de toute façon, moi, comme tout le monde, enfin voilà, j'ai commencé à vouloir regarder un petit peu le planning de la rentrée, de l'automne, là. Bon, puis immédiatement, je suis tombé dans les pommes. Hein. vraiment, cet automne, il va être absolument débile.
Ah, c'est monstrueux.
Bah, toujours, ouais, il y a vraiment la. S'il y a des gens qui sont pas au courant, il va y avoir vraiment les 10 jours de l'apocalypse en octobre, du 10 au 20 octobre, où, en gros, le 10 octobre, il y a Forza Motorsport, le nouveau qui sort. Le 12 octobre, il y a le nouveau Assassin's Creed. Le 17 octobre, il y a Alan Wake 2. Et le 20 octobre, le même jour, il y a Spider-Man 2 et
Super Mario Wonder.
Voilà, en 10 jours, tu as 5 des plus gros jeux de l'année qui sortent.
Moi, j'ai ça et j'ai noté débilissime. En plus, j'ai noté de mon côté, en truc un peu plus double, mais j'attends Alone in the Dark, qui me plaît bien. The Last Phase, qui est un Metroidvania machin. Et Lord of the Fallen, le remake qui... Évidemment, tout ça, c'est pas des jeux qu'on, en termes commercialement parlant, qu'on parlera de groupe de la cité, mais c'est quand même monstrueux, quoi.
Après, voilà, moi, il y a les trois jeux qui sont encore prévus techniquement pour 2023. Après, tous autant qu'ils sont, ils n'ont pas de date, donc c'est possible. Et quelque part, j'espère qu'il y en a au moins un des trois, voire les trois, qui vont être décalés. Alors déjà, il y a The Talos Principle 2.
Ah, oui,
qui a été annoncé là au dernier PAE 3 et moi j'avais surkiffé, mais vraiment surkiffé le premier. Je suis ultra fan de ce jeu et du coup bah, je suis déjà forcément très très curieux de voir
On rappelle juste que c'est un puzzle game, c'est une sorte de puzzle game à la première personne.
Voilà, avec toute une trame narrative très philosophique mais qui marche vraiment très très bien. Fait par Crow Team, donc les développeurs de Serious Sam. Hein, voilà,
Il faut être polyvalent dans la vie, voilà, le grand écart est total.
Voilà, ouais. Là, eux, ils sont polyvalents, il n'y a pas de doute. Et puis après, les deux autres jeux aussi qui me tapent très très fort dans l'œil, et ça a beau être des jeux indés, c'est encore des trucs qui vont montrer à quel point moi je suis vraiment de l'école des graphismes. Il y a The Plucky Squire, qui est censé sortir avant la fin d'année. Alors pour ceux qui ne voient pas.
Chez
Devolver, ouais. Je sais plus le nom du studio, je suis désolé. Mais ça a l'air d'être un... Enfin, c'est un jeu qui a l'air de partir dans absolument tous les sens, de mélanger 12 milliards de gameplay différents en 2D, en 3D. Mais visuellement, c'est d'une inventivité hallucinante. Ça a l'air vraiment incroyable. Et l'autre truc qui m'a tapé dans l'œil il y a déjà pas mal de temps et qui devrait normalement sortir d'ici la fin de l'année, c'est Replaced. Qui est une sorte de cinématique platformer a priori fait par le studio Sat 4 Studio,
ouais.
qui est pareil, voilà, niveau esthétique, alors c'est un peu du pixel art mais pas trop parce que c'est en full 3D quand même, avec des jeux de lumière pareil qui sont hallucinants. Il y a une ambiance de maboule,
côté voxel un peu, enfin pas voxel, ouais, tu sais pas trop, mais oui, c'est sublime, enfin
ouais, c'est voilà, c'est vraiment sublime. Après c'est une histoire de science-fiction relativement classique mais qui a l'air d'être quand même super efficace, et si l'ambiance générale du jeu est au niveau de son ambiance visuelle, ça va être incroyable. Et c'est un jeu qui aurait dû normalement sortir en 2022. Le truc c'est que le studio de développement est au Bélarus. Et forcément, la situation géopolitique là-bas en ce moment, c'est complexe. Du coup, ils se sont relocalisés à Chypre. Et c'est de là qu'ils sont en train de finir le jeu qui, normalement, devrait pouvoir sortir en 2023.
Ouais, c'est ça. C'est ce qu'il y a studio qui est en train de regarder ce qu'ils ont fait. Mais effectivement, Replaced, pas fait beaucoup de jeux avant, j'ai l'impression. C'est même pas leur premier jeu, en fait.
Ouais, il y a moyen que ce soit leur premier jeu, je sais plus, mais...
Et ouais, alors celui-là, tu vois, bah, je le rajoute dans ma liste, parce que moi, j'ai une petite liste de jeux que j'attends en 2023, c'est pareil, c'est vraiment n'importe quoi. C'est tout, c'est déjà bien. Hein.
Non, bah après, si tu veux, non, je te fasse vraiment la liste complète des jeux qui m'intéressent. Est-ce que tu as 3 heures devant toi?
Voilà, c'est ça. Moi, c'est pareil. Là, je dois avoir au moins 15 jeux.
J'ai essayé de prendre déjà ceux qui me parlent le plus et puis aussi tout simplement ceux qui sont le moins mainstream, hein, parce qu'au bout d'un moment, voilà. Je suis très curieux de voir le nouveau Forza. Ça fait une éternité qu'on n'a pas eu un nouveau Forza, donc moi, je suis curieux de voir à quoi il va ressembler. Après, bon, c'est un Forza, quoi.
Voilà, je savais pas que t'étais Vroom Vroom, toi.
Ah, tu savais pas que j'étais Vroom Vroom? Ouais, j'adore les jeux de caisse, moi.
Ah d'accord, bah écoute,
voilà. Tu apprends la tuile, tu vois, merde, oh, si j'avais bon. Su.
Je suis un tout petit peu déçu, mais c'est un tout petit peu dans mon estime. Écoutez, moi je vais pas faire dans l'original, effectivement, moi je pense que s'il y a un jeu là auquel j'ai envie de jouer de manière le plus sûre, et je sais que ça va me plaire, c'est Alan Wake 2, parce que Alan Wake 2, c'est une suite qu'on attendait plus trop, déjà, qui a été annoncée quand même relativement par surprise il n'y a pas si longtemps que ça. Le jeu, alors j'imagine que le jeu est en développement depuis longtemps, mais donc la com est plutôt bien menée. C'est le jeu, voilà, il a été annoncé il y a un an, je pense, un truc comme ça. Il sort déjà, entre guillemets, en octobre prochain. Et surtout, entre temps.
Je crois qu'il a été annoncé un peu plus longtemps. Il avait été annoncé en même temps que quand vraiment Epic commençait à vouloir faire, en gros, être le mécène du jeu vidéo, en fait, et à vouloir publier des jeux, mais genre en mode, juste, nous, on prend des studios qu'on aime bien, on leur balance un chèque en blanc, et puis après, ils se démerdent.
Voilà, parce qu'on rappelle que c'est donc développé toujours par Remedy, et c'est donc, édité et financé par Epic. Et entre-temps, en plus, Remedy... moi, alors, Alan Wake, c'est un jeu que j'aime beaucoup, qui n'est pas sans défaut, mais je trouve qu'il y avait un truc dans Alan Wake, l'histoire, la mise en scène, etc. Le gameplay était un peu... Et justement, comme le gameplay était OK, mais il y avait quand même quelques défauts, sauf qu'entre-temps, Remedy, ils ont sorti quand même Control, qui est un jeu qui, en termes de gameplay, que j'adore d'une manière générale, mais en termes de gameplay, est un des meilleurs TPS auxquels j'ai joué ces dernières années. C'est nerveux, c'est un plaisir à jouer, vraiment, manette en main, c'est un vrai plaisir. Du coup, je me dis, vu les progrès qu'ils ont fait là-dessus, et Alan Wake 2 a l'air d'être un jeu qui va moins miser sur l'action, plus sur l'ambiance, il y a un côté survival horror qui est beaucoup plus appuyé. Mais c'est pour ça que je suis extrêmement confiant. C'est-à-dire que s'ils arrivent à garder la qualité d'écriture et d'ambiance et de scénario du premier Alan Wake, avec en plus des améliorations de gameplay qu'on espère, notamment avec ce qu'ils ont appris sur Control, eh ben, ça peut donner un de mes jeux de l'année, on verra. Mais je suis très très confiant.
Moi, je suis entièrement d'accord avec 100% des mots que tu viens de prononcer. C'est exactement mon sentiment.
C'est
aussi
magnifique. Magnifique. Je sais que c'est un jeu.
Pour ceux qui savent pas, en plus, faut rappeler que voilà, il y a un truc que Remedy aime bien faire, c'est que tous leurs jeux, en fait, se déroulent un peu dans le même univers étendu, entre gros guillemets. Et il y a quand même déjà de très très grosses références à Alan Wake dans Control.
Il y a même un DLC.
Oui, voilà, je me permets de le dire parce qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment spoilé, vu qu'il y a vraiment un DLC qui est sorti. Tout l'intérêt du jeu, c'est de relier les univers vraiment de Control et d'Alan Wake. Donc oui, quelque part, je pense que ce Alan Wake 2, c'est un truc qu'ils ont eu à l'arrière de leur tête, qui s'est jamais allé depuis qu'ils ont fini le premier Alan Wake. Et c'est cool, très très cool de voir qu'ils ont pu se lancer là-dedans et que le jeu, franchement, a l'air très prometteur.
Ouais, c'est clair. Et donc Alan Wake sort le 17 octobre et j'aurai même pas une semaine pour le faire, puisqu'après, c'est le deuxième jeu auquel je voulais parler, je l'ai évoqué tout à l'heure vite fait, c'est Alone in the Dark. Alors, je suis moins certain, on va dire, du résultat final que Alan Wake. Ça peut être raté, mais je suis assez confiant sur celui-là parce que c'est vraiment une sorte de soft reboot, on va dire, d'Alone in the Dark, de cette licence qui a inventé globalement les codes du survival horror, notamment après Resident Evil, hein, on s'en rappelle. Celui-là, en fait, déjà, je l'avais vu à la Gamescom l'année dernière et entre-temps, il y a eu la démo qui est sortie et tout. Je trouve qu'il y a un super travail sur l'ambiance. Le côté années 30, vraiment ce qu'on peut attendre quand on a joué à des jeux de rôle comme l'Appel de Cthulhu, etc. Il a l'air vraiment d'être bien respecté. Au scénario, t'as le scénariste de Soma, qui est un jeu que j'aime énormément, donc chez Frictional Game. Et il y a vraiment toute une team de personnes talentueuses derrière qui me font dire que ça va vraiment être un jeu qui réussit. Il y a un truc aussi, là, c'est probablement 80% du marketing, il a touché un chèque, mais Frédéric Reynal, qui a toujours quand même renié tous les épisodes d'Alone in the Dark, par le premier, celui qu'il a fait, puisque c'est le seul qu'il a fait finalement, après il est parti, et tout ce qui est sorti après, c'était globalement nul, et Reynal se ne cachais pas pour le dire. Là, ils ont le soutien officiel de Reynal en disant, voilà, ils font du super taf et tout. Je crois qu'il est vaguement embauché en tant que consultant. Je me dis que ça vaut ce que ça vaut. Peut-être que c'est que du marketing, etc. Parce mais après, ça rajoute un truc quand même.
La dernière fois que Reynal a essayé de réaliser un jeu lui-même, ça ne s'est pas super bien terminé, mais bon.
Je ne sais pas le dire, mais effectivement, tout à l'heure, c'était compliqué.
C'était bien
même si il y avait des promesses qui étaient là, mais oui, l'exécution, c'était pas ça. Donc voilà, donc Alan Wake, Alan in the Dark, je vais avoir Alan Wake 2, Alan in the Dark en octobre, je vais avoir ma dose de jeux d'horreur, et ça, franchement, ça me fait bien plaisir. Quoi. Franchement, on a commencé l'année avec Dead Space, puis un peu plus tard Resident Evil, et on la termine avec Alan Wake, Alan in the Dark. Quel plaisir, enfin voilà, pour tout ce qui est jeux d'horreur. Et je te
il y a une bonne ambiance, de... ouais, cette année, je trouve. Ouais,
ouais bah oui, après, bah oui, bah disons que c'est vrai qu'en termes de jeux feel good, si, il y aura Super Mario à la fin du mois, le 20 octobre.
Oui.
Donc en fait, il sort pile entre Alan Wake et Alan in the Dark, Super Mario Wonder.
Pour récupérer 2-3 points de santé mentale, putain.
C'est ça, exactement. Exactement. Bon, écoutez, on va peut-être s'arrêter là pour ce petit sujet sur à la fois le bilan de la première partie de l'année et ce qu'on attendait pour la suite. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Et on va passer à nos jeux du moment, les jeux auxquels on joue en ce moment, évidemment. On va commencer par Florian, parce que Florian, on sait de quoi tu vas parler, tu l'as noté. On va garder la surprise de Sophie, entre guillemets, pour après. Flo, toi, tu t'es enfin décidé à jouer à un certain Cyberpunk 2077.
Ouais, un petit jeu qui vient de sortir, je ne sais pas si vous en avez entendu parler.
Ouais.
Non, pas du tout.
Ouais, non, mais ça fait quelques mois déjà, en fait, que je me suis mis enfin pour de
vrai. Est-ce qu'on peut y jouer si on n'a pas joué au 2776? Ouais, pardon, la blague.
Alors, c'est peut-être pour ça, du coup, que je n'ai pas tout compris. Ça doit être ça, le problème. Non, mais oui, du coup, je me suis enfin décidé à y jouer là, en 2023, parce que, écoutez, pourquoi pas. Et je l'ai fini il n'y a pas longtemps, et j'aime bien en parler de ce jeu, parce que, bah, en toute honnêteté, je n'ai pas trop aimé, mais... C'était fascinant d'y jouer en 2023, 3 ans après tout le monde, à un moment où le jeu, ça y est, il est débarrassé de tous ces bugs qui avaient tant fait rigoler tout le monde au lancement. C'est pas qu'il n'y en ait plus, hein, y en a encore un ou deux ou trois qui se baladent par-ci par-là, mais quelque part dans un open world, en fait, c'est un peu inévitable. Surtout un open world aussi complexe que celui-là. Mais malgré tout, ça reste un jeu malade. Ça reste un jeu un petit peu cassé sur les bords. C'est un jeu qui m'a surpris par l'accent qu'il mettait vraiment sur la narration. Je veux dire, je sais que CD Projekt Red est connu pour ça, mais je ne m'attendais vraiment pas à ce que ce soit à ce point, qu'il y ait vraiment des très très longs passages où le truc passe limite pour un visual novel, en fait, presque.
Ah ouais?
Mais limite, ça c'était plutôt une bonne surprise. J'aurais préféré à des moments qui restent un visual novel, parce que par contre les séquences de gameplay, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Le gunfight il marche vraiment pas. Mais ce qui est le plus fascinant à voir, c'est à quel point, en fait, même une fois que tous ces bugs ont été nettoyés, c'est quand même un jeu qui porte encore, mais d'une façon incroyablement visible, tous les stigmates de son développement compliqué. Où en fait, il y a une déconnexion totale entre les éléments vraiment, les piliers vraiment, les fondations du jeu, et tout simplement la ville en elle-même, qui est vraiment incroyable. Pas juste par sa taille, mais par son architecture, par tous les aspects... Ouais. Les aspects un peu narration environnementale qu'il y a dedans. Alors oui, je suis un peu d'accord avec tous ceux qui font remarquer à quel point c'est quand même une vision du futur qui est un petit peu qui manque un peu de tridimensionnalité, où finalement on nous parle beaucoup de transhumanisme et puis de pornographie et de sexe dans le futur, mais par contre la culture concrètement, qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui, ça il manque quand même beaucoup de choses dans le...
Ouais, mais il faut pas oublier que c'est adapté d'un jeu de rôle papier qui date des années 80, donc avec les codes qui vont avec, tu vois.
Eh bien sûr, mais après, je veux dire, c'est des projets, quoi. Ils sont en train de développer un jeu eux-mêmes, ils ont des ambitions de maboule dessus, je veux dire, autant y aller à fond.
Ouais,
peut-être que je suis en train de juger, du coup, le jeu de plateau des années 80 en même temps que je juge le jeu vidéo, mais n'empêche que moi, j'ai joué au jeu, c'est ce que j'ai vu devant moi, tu vois, enfin voilà, il y a des trucs qui fonctionnent et des trucs qui fonctionnent pas. Mais enfin bon, bref, quoi qu'il en soit, de toute façon, cette ville, elle est extraordinaire, mais ce que j'ai trouvé extraordinairement frustrant, c'est à quel point elle est mal exploitée, en fait. et à quel point la narration se sert assez mal de tout ça. Et même si le jeu, voilà, c'est pas vraiment un jeu à quête FedEx, mais j'avais quand même l'impression de passer énormément de temps à juste faire des allers-retours dans la ville pour aller voir tel personnage qui bouge jamais vraiment de son coin. Puis après, j'allais voir tel autre personnage qui bouge jamais vraiment de son coin non plus. C'est un jeu qui manque de vision. C'est un jeu qui a des piliers au potentiel extraordinaire. C'est un jeu qui a des petits moments vraiment, mais très fugaces, de fulgurance incroyable, mais il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de vision globale. Et c'est extrêmement frustrant. C'est un jeu que j'ai été très, très, très frustré d'y jouer. Et le paradoxe, c'est que du coup, maintenant, je suis quand même assez impatient de me lancer dans Phantom Liberty. Ouais, en espérant que, oui, donc le DLC, le gros DLC du jeu qui va sortir là, à la fin d'année aussi, parce que voilà, on manquait de nouveaux jeux.
Sort en septembre.
Voilà, c'est ça, parce qu'on manquait un peu de jeux cet automne. Alors du coup, ils se sont dit, on va rajouter un petit DLC pour Cyberpunk, c'est le moment. Mais du coup, oui, je suis curieux de voir ce que ça va donner en me disant, écoute, celui-là, c'est un DLC, ils ont pris le temps de le fabriquer, ils ont mis 3 ans quand même à le faire. Avec un peu de chance, ils l'auront principalement développé sur une plateforme, sur un jeu de base qui maintenant était stable, qui n'avait plus trop de bugs, qui tenait à peu près la route. Donc peut-être que là, il y aura une vision, peut-être que là, il y a un truc qui va se passer, peut-être que là, il y aura enfin tout ce que j'ai désespérément attendu dans le jeu de base, mais qui n'est jamais arrivé.
Ouais, voilà. Après, ils pourront pas changer la structure même du jeu, qui est finalement une structure plus proche d'un GTA que d'un jeu de rôle ou d'un Deus Ex, tu vois.
Même par rapport à un GTA, je trouve que finalement le truc est moins bien intégré. En fait.
Ouais. Ouais, après, moi c'est vrai qu'à l'époque, je l'avais fait à la sortie. Hein. Alors, je l'avais fait sur un bon PC. La version PC, quand t'avais une bonne machine, c'était vraiment la plus acceptable, on va dire, à la sortie. Et je m'étais pris d'amour pour la ville. Tu l'as dit, c'est une des plus folles que j'ai, enfin, un des open world les plus passionnants que j'ai eu à explorer, malgré tout. Et je m'étais pris aussi d'amour pour beaucoup de personnages secondaires et moi, je m'étais vraiment accroché à ça. Et ce qui fait que ça a été une super expérience. Après, j'y ai pas rejoué depuis et j'ai beaucoup Phantom Liberty. Je vais me replonger dedans avec plaisir parce que effectivement, avec toutes les améliorations qu'ils ont pu ajouter, tout ce qu'ils vont ajouter aussi au moment de ce DLC, parce qu'ils ont dit qu'il y aurait en plus en parallèle de Phantom Liberty, qui sera quand même un DLC à 30€, mais qui devrait durer normalement connaissant CD Projekt 20-30 heures, tu vois, donc minimum. Donc, ça va. Ils vont sortir un patch gratuit qui va rajouter plein de trucs. Plein encore de soucis, etc. Alors, ça aura mis le temps, certes, c'est 3 ans, c'est quasiment 3 ans de sauvetage.
Ça aura mis le temps, pour le coup, honnêtement, je ne pense pas que ça change quelque chose aux problèmes que moi j'ai trouvé dans le jeu, mais qui sont vraiment qui sont fondamentaux, quoi. Je veux dire, à ce stade, honnêtement, pour les corriger, il faudrait juste reprendre le jeu de zéro.
Ça, ouais. Donc, bien sûr.
À la limite, tu reprends juste la ville, mais après, tout le reste, tout le mission design... Ouais. Tout le narratif design, il aurait juste fallu tout reprendre de zéro. Donc
de toute façon, là, la version qui sortira en septembre, Phantom Liberty, ce sera la version finale, ce sera la forme finale de ce jeu. Je pense qu'après, c'est des projets qui passera peut-être à autre chose enfin. Bon, bien sûr qu'ils bossent sur d'autres choses, on le sait, mais...
Oui, bah, ils sont sur The Witcher 4. Hein, là,
ils sont sur The Witcher, ils sont sur plusieurs projets notamment. Donc voilà, mais c'est un jeu qui est super intéressant à analyser, que malgré tous les défauts qu'il a, et voilà, donc merci en tout cas pour ton retour sur ce petit jeu qui vient de sortir, effectivement. On est vraiment dans l'actu, merci.
Ça me fait plaisir.
Je sais. Sophie, j'ai hâte de savoir parce que je sais pas. Alors tu nous as dit, alors je le dis en off, il m'a dit ouais, mais c'est un jeu un peu nul, c'est pour ça que je l'ai pas noté sur le conducteur.
C'est un jeu un peu nul qui est sorti il y a un peu longtemps.
Ok.
Pareil, bravo, merci d'être venu 100% sur l'actu. C'est un jeu, en fait, J'ai fini de jouer à Zelda. Ouais. J'ai pas encore commencé à jouer à Baldur's Gate et tout. Et bon, tu vois, il y a un moment, il faut s'occuper un petit peu.
T'as 15 jours devant toi, on va dire, avant partir sur Baldur's Gate. Donc.
Et en fait, il y a un jeu qui est sorti en Early Access, quoi, en septembre dernier, quasiment un an, ouais, et auquel je joue régulièrement, voilà. Et il y a eu une grosse mise à jour début juin. Et j'ai fait, bon, allez, je le relance. Ce jeu, ça s'appelle Disney Dreamlight Valley.
Oh, j'en étais sûr.
Alors, je ne l'attendais pas, celle-là, tu vois. Mais en même temps, maintenant que tu me le dis, je me dis, ouais, c'est pas déconnant. Je te connais un petit peu. Donc,
J'en ai jamais vraiment parlé. Hein. Heureusement, on est entre nous. J'espère qu'on est dans un endroit un peu safe où je peux m'exprimer.
Il n'y a personne qui nous écoute.
Il n'y a personne qui écoute. Mais, c'est alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu... un peu de, c'est comparé à, un peu à Animal Crossing, le jeu, un jeu comme ça dans l'univers de Disney, où tu rencontres des personnages issus de tous les Disney, les Pixar, et tu dois, tu peux pêcher, planter des légumes et te faire des amis, hein, voilà, vous voyez ce que c'est. C'est un jeu qui donc est en Early Access, qui sera un free-to-play à sa sortie. On n'a pas la date de sortie officielle, mais qui pour l'instant est en Early Access payante.
Okay.
Voilà, qui repose sur un modèle économique un peu crados, puisque donc, pour l'instant il est payant, mais tu as quand même des microtransactions. Donc vraiment, au départ, moi j'y suis allée un peu...
Ça, c'est les meilleurs jeux, ça.
Un peu vénère, un peu bon, voyons voir. Il se trouve qu'il est sur le Game Pass, pour les gens que ça intéresse de tester. Et... c'est vrai que depuis qu'il est sorti, j'ai fait à peu près chaque mise à jour. Chaque mise à jour rajoutait des nouvelles quêtes, des nouveaux personnages. Ce qui fait que quand le jeu, par contre, sortira définitivement, le jeu sera complet. Mais là, ce qui est rigolo, c'est de voir le truc se faire construire. Et il se trouve que la dernière mise à jour, je le lance, je fais des trucs et tout. Et je me rends compte que au fur et à mesure de ces mises à jour, c'est pas mal, en fait. Le jeu est bien. Merde! Qu'est-ce que tu vois?
On ne nous avait pas prévenu, c'était pas dans le contrat, ça.
Le petit plaisir coupable qui, en fait, est en train de devenir un truc pas trop mal, quoi. Et je suis en train de me dire, là, en fait, ça y est, l'histoire, entre guillemets, est complète, puisqu'il y a une histoire. L'arc narratif, en tout cas, est terminé avec cette grosse mise à jour qui est sortie début juin. On imagine qu'il y aura quand même d'autres personnages qui vont continuer à sortir, il y aura d'autres mises à jour, mais on va dire que la partie narrative, a priori, est terminée. C'était pas mal. Alors oui, pareil, c'est des petites quêtes, les quêtes d'amitié, ça va être ramasse des trucs pour un tel, cueille des trucs pour bidule, pêche X poissons, des trucs assez habituels et pas forcément très ambitieux, on va pas se mentir. Mais c'est pas désagréable à faire, les personnages sont marrants. Faut être fan de Disney, hein, forcément. Mais tu te balades et tu croises Wally, tu croises le Roi Lion, tu croises, Donald. Moi, j'aime bien. Et tu leur parles,
on est d'accord,
tu leur fais des cadeaux.
C'est uniquement Disney. Il n'y a pas de Marvel, il n'y a pas de Star Wars.
Non, ouais, il n'y a pas Marvel, il n'y a pas Star Wars, mais il y a Disney Pixar.
Oui, d'accord.
Il y a quand même du Pixar. Moi, j'ai installé, par exemple, la casita, la petite maison qu'on voit dans Encanto, je l'ai installée en face de chez moi. Et puis comme ça, je peux parler à Mirabelle quand je sors. C'est trop mignon. Et puis après, je me rends compte que j'aime vraiment bien. Il est bien comme jeu. Je m'y attendais pas, moi non plus. J'étais la première.
Mais tu sais que c'est un jeu qui est quand même. Enfin, je pense qu'il y a une grosse communauté assez active. Ça marche bien. Enfin, hein, c'est un jeu qui marche bien. Hein.
Alors, il y a par exemple une différence avec Animal Crossing, c'est que tu peux pas aller dans les villes d'autres personnes. Il y a pas le côté multijoueur. Le mot est très grand, mais par exemple Animal Crossing, tu peux aller chez tes amis. Là, c'est pas le cas. C'est un jeu qui est fermé pour l'instant. Après, j'en sais rien du tout ce qu'ils ont prévu derrière. Mais ce petit côté, tiens, alors c'est pareil, c'est en temps réel, hein, l'heure qu'il est dans la vraie vie, c'est l'heure du jeu. Donc t'as des activités ou des choses que tu peux ne peux faire qu'à certaines heures. Toujours rigolo, cette quête où tu dois parler à machin et que machin est endormi. T'es là, putain, en train de hurler parce que Mini est une couche tôt. Écoutez, ça m'est arrivé. Je suis la première surprise parce que moi j'aime bien les petits jeux un peu comme ça, mais faut avouer que la plupart manquent beaucoup d'ambition.
Oui.
Tout le monde n'arrive pas à faire des jeux aussi bien foutus qu'Animal Crossing. Et puis pour tout ce qui est un peu jeu comme ça, un peu de ferme, un peu de housing, un peu tout ça, c'est assez rare que ça soit réussi. Il faut quand même l'avouer. Dreamlight Valley, c'est pas mal en fait.
Et c'est dans le Game Pass en plus, on en Early Access. C'est vraiment, allez jeter un œil si vous êtes abonné, ça coûte rien. Je pense qu'il faut être un tout petit peu sensible aux univers Disney. Hein,
oui, évidemment.
J'enfonce des portes ouvertes.
Mais, par exemple, pour les enfants, c'est super. C'est vraiment super. Ouais. Comme je disais, il y a des microtransactions, c'est-à-dire qu'il y a une monnaie in-game qui te sert à acheter... Il y a une boutique où tu peux acheter des vêtements exclusifs, des objets exclusifs. Donc oui, il faut faire gaffe. Si vous avez des enfants, si vous voulez faire jouer vos enfants, bah faut être très très clair sur le fonctionnement du truc. Hein. Ouais. Mais c'est pas, enfin j'allais dire, c'est pas si pire que n'importe quel jeu avec des microtransactions auxquelles les enfants sont constamment bombardés. Et non, puis ouais, non, c'est trop mignon. Wally, il est trop mignon. Voilà, moi, c'est tout. Tu me dis juste, en fait, c'est le truc qui m'a eu. Ah, il y a Wally. Ok, d'accord, c'est bon.
Ouais, bien sûr, bah, je te comprends. Wally est mes meilleurs persos.
Il y a la Reine des Neiges, il y a tout ça. Non, non, c'est pour ça que j'avais pas trop osé marquer le nom.
Ah, mais au moins, tu nous as laissé baba, tu vois, devant cette annonce. Effectivement, bon, Disney Dreamlight Valley, donc. Sur console aussi
sur tout, je crois qu'il est disponible sur tout. Ah ouais, bah les gars, ils ratissent large. Hein. Ah ouais. Ouais. Tu pourras l'installer sur ton deck si tu veux, pour l'emmener en vacances. Ouais, pendant que tu joueras pas à Baldur's Gate.
Ouais. Bah, c'est vrai que c'est mon fils qui le squatte, mais je sais pas si ça m'intéressait. Je vais voir avec lui. On sait jamais. Ok, merci Sophie. Alors moi, je vais finir rapidement. Sur mon jeu du moment auquel je joue. Alors on est très éloigné de Disney, hein, je suis désolé, on est un poil plus proche de Cyberpunk éventuellement. Cyberpunk 2, je sais pas si ça vous parle, si c'est un jeu qui vous avez déjà entendu parler.
Bien non.
Eh bien non. C'est normal Sophie parce que c'est un FPS rétro. C'est
bah oui.
Pas le genre de jeu que tu joues beaucoup.
100% Macam.
Voilà, si vous voulez cliquer sur le lien YouTube, vous verrez. Alors, FPS rétro, mais pas tant que ça, parce que quand on parle de FPS rétro, donc ce qu'on appelle affectueusement les boomer shooters, hein, on s'imagine des jeux avec des gros pixels qui ressemblent à Quake, qui ressemblent à éventuellement à Duke Nukem 3D. Là, l'inspiration, elle vient plutôt d'un FPS des années 2000 qui s'appelle Fear. Peut-être que Fear, ça vous parle un peu plus. C'était un FPS qui mélangeait de manière assez maligne jeu ambiance militaro complotiste avec des escouades et des on défonce des immeubles et des bureaux avec en plus un système de ralenti qui était ultra cool à l'époque et jeu d'horreur avec on était dans les années 2000 donc avec une petite fille à cheveux longs avec des cheveux longs devant les yeux qui te pourchasse et qui crame tout le monde. Merci Ring d'avoir initié cette mode-là. Trepang 2 est clairement un hommage à cette licence, à Fear, puisqu'on est franchement le scénario, je vais même pas essayer de vous le résumer parce que on fout, tu vois. On est une sorte de super soldat qui fait partie d'un groupuscule de soldats qui luttent contre d'autres soldats. Voilà, je ne peux pas vous résumer ça mieux.
Ah, je vois bien.
Par contre, il y a un feeling dans le gameplay, c'est-à-dire que c'est vraiment Fear sous en fait. C'est-à-dire que c'est ultra nerveux, il y a toujours un système de ralenti, donc en fait une sorte de jauge de bullet time hein, que tu peux activer en fait quand tu veux et que tu remplis en tuant d'autres ennemis. Avec du coup, ça donne vraiment des combats qui sont ultra 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 fun, ultra ultra nerveux. Tu peux faire des glissades vraiment pour faire tomber les ennemis, tu peux vraiment te retourner, enfin il y a vraiment plein de trucs. En plus le level design est plutôt bien fait, même s'il est pas d'une originalité folle. C'est le modèle un peu à la Doom 2016, c'est-à-dire c'est des couloirs, une grande arène avec des vagues d'ennemis, plus des couloirs, etc. Ça c'est un peu c'est pas très original, mais ça fonctionne bien. Et il y a le côté horrifique en plus qui, bon, pour le moment je le trouve un petit peu moins réussi que dans Fear. C'est quelque chose de peu plus c'est pour le moment ce que j'en ai vu, c'est des gros monstres, des espèces de mutants. Bon, c'est pas hyper fun. Le jeu, comment dire, c'est un jeu que je trouve vraiment très cool, mais j'ai bien conscience qu'on s'adresse quand même à un public assez restreint. C'est-à-dire que si vous êtes nostalgique notamment de Fear, donc le jeu dont j'ai parlé, c'est évidemment un truc qui pourrait vous intéresser. D'une manière générale, voilà, on est vraiment destiné à ces joueurs de FPS quarantenaires ou trentenaires éventuellement, comme moi, qui râlent un peu parce que les FPS d'aujourd'hui sont trop lents, même si je suis pas comme ça, j'exagère, mais voilà. Donc c'est un jeu très intéressant, très très fun à jouer. Ça va pas réinventer l'eau chaude, mais c'est un bon hommage à un jeu que moi j'adorais à l'époque. Donc voilà, je sais très bien que ce soit toi ou Florian, vous êtes pas c'est pas vraiment votre genre de jeu, donc je sais pas si j'ai eu votre attention.
Bah tu as eu ma curiosité. Après de là je vais au moins regarder ce que c'est, ça m'a rendu curieux.
Ouais, bah vas-y, regarde. Franchement, c'est assez intéressant, même si c'est, je te dis, c'est assez. Et puis tu vois, ça se voit que c'est un jeu indé parce que il y a, disons que le jeu a un peu trop d'ambition par rapport à son budget. Typiquement, t'as entre chaque mission, t'es dans une espèce de hub qui est en fait la base de ton organisation militaire. T'es censé être entouré de collègues et de mecs en escouade avec toi. Quand t'arrives dans cette base, tu es tout seul, il y a personne. T'as constamment ta patronne qui te parle dans un talkie-walkie et genre tu croises un mec de temps en temps qui est genre au stand de tir, c'est tout quoi. Et ça fait, il y a vraiment une sorte de et ça, c'est un exemple, mais pour montrer que tu sens quand même c'est un double A. Enfin, c'est un jeu, c'est même pas un double A, c'est un jeu indé. C'est un jeu qui a été développé pendant très longtemps et ils ont fait avec ce qu'ils pouvaient. Mais je trouve que le résultat, disons que la promesse de retrouver les sensations de tir d'un jeu comme Fear, bah, elle est là, elle est réussie. C'est quand même le plus important. Donc voilà. Je voulais vous parler aussi rapidement, avant de passer à la fin de l'émission, d'un documentaire que j'ai eu la chance de pouvoir visionner en avant-première, en exclusivité. Enfin, en avant-première, c'est un documentaire qui va sortir à la fin du mois d'août, qui s'appelle, donc on reste dans la thématique, hein, The FPS, First Person Shooter Document. C'est The FPS, First Person Shooter. À votre avis, ça parle de quoi? Ça parle de FPS.
De boomer et shooter, allez.
Heureusement, c'est beaucoup plus large que ça. C'est en fait la volonté de faire une espèce de documentaire ultime sur ce genre, puisqu'en fait, c'est un documentaire qui retrace l'entièreté de l'histoire du FPS, vraiment des origines. Je parle de ça avant WolfenStein 3D. Ça commence au début des années 70, quoi. Donc voilà, ça part de là jusqu'à 2022, là, avec les boomer shooters, évidemment, les Call of Duty, les Borderlands, etc. C'est un documentaire qui dure, je préviens tout de suite, hein, qui dure 4h30. C'est assez long.
Pardon.
Voilà, qui dure 4h30. Mais quand on aime ce genre, c'est hyper cool à regarder. Parce qu'en fait, en gros, le principe est assez simple. En team de montage, c'est que des intervenants et donc des gens qui ont travaillé dans FPS. Et il y a beaucoup de gens très connus. Hein. Vous avez John Carmack, vous avez Romero chez id Software, vous avez Randy Pitchford, vous avez les créateurs de Duke Nukem 3D, vous avez Tim Sweeney, vous avez, enfin voilà, vous avez Cliff Bleszinski, il y a vraiment beaucoup beaucoup de gens. Il y a assez peu de femmes qui interviennent. Il y en a heureusement quelques-unes, notamment du côté des pro gameuses et quelques développeuses de jeux vidéo qui ont mine de rien un CV assez fat, mais c'est vrai que le casting est quand même excessivement masculin. Et on est pendant en fait, de manière chronologique, en fait, ça déroule l'histoire du FPS avec à chaque fois les intervenants, quand c'est possible, les créateurs de ce jeu qui en parlent. Alors, tous les segments ne se valent pas. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on sent que, par exemple, un des segments que j'ai le plus intéressant, il y a un long segment d'une demi-heure sur GoldenEye 64 avec les créateurs du jeu qui sont là et qui racontent vraiment plein d'anecdotes sur le making-of du jeu, etc., etc. Et typiquement, des moments un peu plus décevants, quand ils arrivent, par exemple, chez Valve avec Half-Life. Le problème, c'est qu'il n'y a personne de chez Valve qui est dans l'émission, puisque c'est toujours très compliqué d'interviewer les gens de chez Valve et les créateurs de cette époque. Donc là, on est sur plus des gens qui vont témoigner de ce qu'a été pour eux l'arrivée d'Half-Life, etc. Donc c'est un peu plus en surface. Du bien général, d'ailleurs, c'est peut-être le truc que je peux reprocher au documentaire, c'est étant donné que ça veut absolument tout couvrir, ça dure 4h30 malgré tout, ça reste quand même assez souvent en surface parce qu'il y a tellement de jeux évoqués, il y a plus de 50 jeux qui sont évoqués plus de 40 jeux qui sont évoqués dans le documentaire. Forcément, il y a des moments où ils vont passer très rapidement sur tel jeu alors que tu aurais voulu en savoir un peu plus, quoi. Malgré tout, je pense que pour les gens qui ont envie d'en savoir plus sur l'histoire du FPS et se rappeler à la fois des souvenirs et apprendre des trucs, c'est hyper cool. Ça sort. Alors, pour le moment, en fait, c'est un peu compliqué. Ça va sortir en digital. Il faudra qu'on mette le lien quelque part fin août, et ça va sortir en Blu-ray qu'on pourra commander fin septembre. Pour le moment, le documentaire est uniquement en anglais avec des sous-titres anglais activables. C'est tout à fait compréhensible si on a un peu l'habitude à la fois de l'anglais jeu vidéo et qu'on a un niveau d'anglais moyen plus, on va dire. Mais voilà, c'est un documentaire que j'ai pris beaucoup de plaisir à voir. On peut le mater en plusieurs parties parce que 4h30, voilà, tu peux te mater ça comme par tranche de 3-4 jeux, c'est tout à fait envisageable. C'est vraiment chouette et voilà, j'ai été très content de pouvoir découvrir ça en avance. Et je remercie d'ailleurs les producteurs du documentaire d'avoir pu m'envoyer une version preview pour que je puisse la regarder et en parler. Voilà, j'ai fait ma partie.
Bravo, Jika.
Voilà, je crois que je vais reprendre un petit peu d'eau avant éventuellement de passer à la fin de l'émission. Voilà, on coupera ça au montage, bien sûr. Donc la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste quand même pas mal de petites actus à évoquer. Alors on va faire comme on fait d'habitude. Hein. Je vais dérouler tout ça. Vous m'arrêtez si vous avez des choses à dire. N'hésitez pas à m'interrompre. La première chose que j'ai notée, alors qui va me parler un peu plus parce que voilà, c'est le côté un peu rétro, mais c'est intéressant. C'est une enquête qui est sortie. Il y a quelques jours, qui émane de la Video Game History Foundation, donc une association américaine qui s'intéresse à l'histoire du jeu vidéo, qui a fait une enquête assez intéressante et alarmante, qui se sont rendu compte que 87% des jeux qui sont sortis avant 2010, donc il y a 13 ans maintenant, ne sont tout simplement plus accessibles de manière légale et facile. Et c'est assez alarmant parce que ça pose vraiment la question de la préservation du jeu vidéo. Parce que 2010, en gros, ça correspond à l'année où le dématérialisé a commencé vraiment à prendre une ampleur assez forte et où le support physique a commencé vraiment à baisser, notamment sur console et aussi sur PC. Et du coup, c'est un chiffre qui est assez alarmant. Et ils disent en gros qu'aujourd'hui, c'est vrai que la solution pour avoir des traces de ces trucs-là, c'est soit d'aller chiner pour trouver des jeux d'occasion, etc. Mais ça devient de plus en plus compliqué, de plus en plus cher. Soit de passer par du piratage, qui n'est pas forcément une solution idéale non plus. Moi, après, c'est vrai que j'ai un avis un peu biaisé là-dessus parce que je me dis que la meilleure façon de conserver un objet numérique, c'est de le numériser, donc d'avoir la ROM quelque part et de stocker ça sur une bibliothèque gigantesque telle que Internet Archive, par exemple, qui fait un taf de d'archivage absolument monstrueux, mais qui aussi peut avoir des problèmes par rapport au copyright des jeux. C'est un problème aussi. Donc voilà, c'est un vrai problème, ça, pour le coup, la conservation des jeux. Et voilà. Ouais, et juste, je précise avant que tu interviennes que, évidemment, ouais, ça ne concerne que le marché nord-américain, cette étude. Donc, il y a encore tout un pan de... Mais bon, je pense que le problème est pas le même.
Mais effectivement, en fait, c'est un peu paradoxal comme question parce que la façon dont c'est présenté, ouais, c'est très tentant de penser que oui, avec justement le virage vers le numérique, ça va être de pire en pire parce que bah, dès qu'un jeu sort des boutiques numériques, en gros, bah, il disparaît du jour au lendemain. Et effectivement, ça, c'est un problème monstrueux. Après, en vrai, dans le cadre d'une étude comme ça, au contraire, bah, comme tu as commencé un petit peu à le dire, en fait, une sortie en numérique, c'est beaucoup plus avantageux qu'une sortie en physique, parce qu'une sortie en physique, bah, dès que tu commences à dire « ouais, mais là, juste... » Il arrive très très vite le moment où tu dis « mais juste, en fait, on ne vend plus assez de volume pour justifier de maintenir de la production physique de ce jeu. » Alors qu'à l'inverse, un jeu qui est disponible en numérique, bah, finalement, tant que la plateforme sur laquelle il est disponible reste encore debout, peut y avoir deux exemplaires qui sont écoulés par an, tu n'as strictement aucune raison en tant que distributeur de retirer le jeu de la plateforme. Oui, donc, en fait, de toute façon, la préservation du jeu vidéo, c'est connu, c'est un problème qui est absolument majeur. Et oui, ce chiffre, oui, même si quelque part il est surprenant, il est quand même effrayant de se dire qu'il y a quasiment 90% de la production du jeu vidéo qui est plus disponible légalement. Mais en fait, oui, paradoxalement, le numérique, c'est plus une solution qu'un problème, en fait, même si par certains aspects, c'est aussi un problème.
Bah, je suis d'accord. Et puis, le support physique a une durée de vie limitée, contrairement à un truc 100% des maths. Enfin, va faire fonctionner un CD PlayStation aujourd'hui. T'as quand même de grandes chances que ton CD fonctionne plus. Les cartouches, c'est pareil. Enfin,
tu vois. Mauvais exemple, parce que les CD, justement, c'est un support qui a une très, très bonne durée de vie. Par contre, les cartouches...
C'est peut-être le DVD. Non, j'avais pas entendu que comme quoi le CD et le DVD avaient genre 20 ans de durée de vie.
Ah, mais par rapport à une cartouche, c'est déjà énorme. Il y a des cartouches 3DS justement qui posent déjà souci. Hein. Les cartouches 3DS commencent à pourrir là.
Ouais, tu vois. Donc, et quand tu vois typiquement la petite Nintendo qui ferme ses e-shops au bon vouloir et qui t'as toute une partie de la production qui disparaît, c'est effectivement compliqué quoi.
Après, oui, enfin, voilà, c'est le temps de distribuer des bons points. Justement, Nintendo, toujours les meilleurs au monde quand il s'agit de préservation. Les mecs qui sont au sommet du game, c'est incroyable. Parce que je parle de façon ironique, hein, je précise, pour ceux qui n'ont pas compris. Et Nintendo, c'est une catastrophe en termes de préservation. Ils font n'importe quoi de A à Z.
Ouais, c'est clair. Sophie, tu voulais ajouter
quelque chose ? J'avais vu passer, il n'y a pas longtemps, c'est marrant, une étude similaire dans le cinéma. Ouais. Qui disait qu'il y a bah, genre 90% de la production cinématographique, bah, alors, depuis l'invention du cinéma, ça commence à dater un petit peu, qui avait tout simplement disparu ou qui allait disparaître. Enfin, j'ai plus les trucs en tête, mais ça me rappelle ça.
Ouais, parce
et là où la question, c'était pas... Il y a une époque où la question se posait pas, et c'est une industrie qui est plus vieille, donc on peut un peu se dire qu'elle aurait pu y penser avant. Et en fait, non. Et pareil, ouais. Le coup de si ça disparaît. Maintenant, où aussi on est sur de plus en plus de dématérialisation et de système d'abonnement hein, pour tout ce qui est, on va dire, audiovisuel. Et où le fait, on a déjà des problèmes de si telle plateforme décide de retirer telle série, tel film ou quoi, existe-t-il encore des moyens pour voir, visionner cette œuvre? C'est des questions qui se posent aussi beaucoup dans.
D'où l'intérêt d'avoir une bibliothèque numérique comme Internet Archive qui va essayer de stocker un maximum de trucs, mais tu peux très bien avoir un jour un ayant droit qui arrive et qui.
C'est exactement ça, c'est-à-dire le principe de. Il faudrait une grande bibliothèque d'Alexandrie, quoi, mais.
C'est littéralement le but d'Internet Archive. Hein,
sauf que, à une époque capitaliste, t'as les gens qui vont arriver en non, ça c'est à moi! Vous n'avez pas le droit. Et qui a foutu feu. Je pense qu'en fait, l'incendie de la grande bibliothèque d'Alexandrie, c'était ça, en fait. C'était un ayant droit.
C'était Disney qui s'est dit non, tu ne conserves pas Mickey dans la bibliothèque d'Alexandrie.
Ça s'appelait Disneyos à l'époque. C'est Jean-Michel Disneyos qui est arrivé, qui a foutu le feu, en disant non, ça c'est à moi. Les oreilles, le bonhomme avec des oreilles, là, ça c'est moi, ça.
Nikos, il s'appelait.
C'est vrai. Mais oui, c'est vrai, c'est connu. Mais oui, non, mais c'est des trucs en plus dont on parle depuis longtemps en disant attention, un jour on va avoir des problèmes avec la préservation, attention. Et c'est vraiment des enjeux qui sont très connus.
On ne veut pas inciter à pirater, mais c'est vrai qu'au moins l'avantage, même si c'est pas. Et puis surtout, ça, au-delà du côté illégal, c'est que c'est des moyens d'accès qui sont pas simples, tu vois. C'est sûr qu'il installe un émulateur, etc. Mais au moins de se dire, les ROM sont quelque part, même si c'est pas légal de les avoir, on a quand même une trace de ce jeu obscur qui est sorti peut-être qu'au Japon, etc. quoi. Bon, on va avancer un petit peu, sinon ça va être trop long. Moi, j'ai envie de parler de Peter Molyneux. Peter Molyneux, franchement.
Mais parle-nous de Peter Molyneux.
C'est toujours un plaisir de parler de Peter Molyneux. Il est sorti un peu de son silence, parce que c'est longtemps qu'on n'avait plus de nouvelles. Récemment, il a été interviewé après une keynote qu'il a donnée, et il a annoncé qu'il travaillait sur un nouveau jeu. Eh ben oui. Voilà, Peter Molyneux est de retour. Alors, il a toujours un peu deux côtés, Peter Molyneux. Il a dit. Là, franchement, je vais rien vous dire parce que, comme d'habitude, si je parle, je vais tout vous raconter et après, ça va mal se passer, ça va mal finir. Il a raison, mais il me dit, mais par contre, je peux vous dire quand même qu'il y aura des trucs que vous avez jamais vus dans le jeu vidéo. Voilà.
Mais il a pas changé, hein. Le mec, il change pas.
C'est maladif.
Il peut pas s'en empêcher. Rien que pour ça, franchement, je l'adore, mais au premier degré, ce mec. Enfin, il est super,
parce
qu'il est passionnant.
Il ne fait pas exprès. C'est pas de la malveillance.
C'est
pas exprès.
C'est pas une posture marketing, tu vois. Il croit vraiment au truc. Alors, il a dit que c'était un jeu plus. Enfin, déjà, ce sera pas un jeu mobile, ce sera un jeu PC-console, et que ce sera plus proche de ce qu'il a fait sur Fable, Black and White et Dungeon Keeper. Il cite quand même trois gros mastodontes. Est-ce que ça va être un God Game médiéval fantastique? Je le vois bien comme ça, je sais pas. Mais bon, voilà. En tout cas, il est de retour est-ce qu'il va nous faire le GOTY 2024? Franchement, c'est tout ce que je demande.
Évidemment, nous aussi.
Ouais, c'est ça. Quoi d'autre? Sega. Chez Sega of America, tiens, il y a eu un truc assez intéressant qui s'est passé, c'est qu'ils ont réussi à former un syndicat sur l'ensemble de la société. Aux États-Unis, je parle des États-Unis, puisqu'aux États-Unis, on sait très bien que c'est très compliqué de former des syndicats. Sega of America a réussi
au Japon, c'est bien connu, c'est plus simple.
Oui, je compare par rapport à l'Europe, mais oui, ou la France même. Là, ils ont créé la Allied Employee Guild Improving Sega, donc la guilde des employés alliés pour améliorer Sega, c'est le nom de la société. Et disons que c'est le premier syndicat aux États-Unis qui a cette ampleur-là, puisque, encore une fois, ça concerne l'ensemble de la société. Il y a déjà eu des cas de syndicats créés dans des grosses structures de jeux vidéo, mais ça concernait plus certains départements. Là vraiment, il y a vraiment un premier vrai gros syndicat qui s'est créé, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les employés, en tout cas chez Sega of America.
Et si ça peut montrer l'exemple et que l'idée se disperse, ça serait pas plus mal.
C'est exactement. En ce moment, aux États-Unis, c'est quand même une tendance qui est, même si c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de bras de fer, évidemment, c'est quand même une vraie tendance, la création de syndicats. Donc, dans un métier qui est compliqué, on sait très bien que les conditions de travail sont pas toutes terribles. C'est une bonne nouvelle. On va rester un peu chez Sega malgré tout, parce que Yuji Naka, souvenez-vous Yuji Naka, donc c'est le fameux créateur de Sonic et de Balan Wonderworld récemment, de sinistre mémoire malheureusement. Il avait des petits problèmes avec la justice, puisqu'il a été reconnu coupable de délit d'initié, puisqu'il avait acheté des actions des studios Aiming et Atem Entertainment, parce qu'il avait des infos sur des jeux Dragon Quest et Final Fantasy qui allaient être développés. Donc on s'est dit, allez, on va acheter quelques petites actions juste avant. Évidemment, ça s'est mal passé. En plus, au Japon, ils sont très sévères avec ce genre de choses. Il réussit à échapper à la prison quand même. Il a écopé de 2 ans de prison avec sursis et de quand même de 172 millions de yens d'amende. C'est quand même pas dégueu, ce qui représente 1,1 million d'euros. Donc c'est voilà une petite tape sur les doigts. Au moins il n'est pas en prison. Voilà. On peut dire ça comme ça. C'est toujours ça.
Il pourra tout faire à Balan Wonderworld 2.
Oui, j'espère qu'il va faire mieux que ça, effectivement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, il y a peut-être des trucs qu'on va passer un petit peu. Ah oui, tiens, intéressant, un départ à la retraite qui était surprenant. Evan Wells, qui était le co-président de Naughty Dog, il est arrivé chez Naughty Dog il y a 25 ans. Il a commencé avec sur Crash Bandicoot 3. Il était co-président depuis bien longtemps du studio. Bah, il annonce son retirement. Alors, il dit pas forcément qu'il quitte complètement l'industrie, qu'il arrête de travailler, mais moi, ce que je comprends, c'est qu'il quitte Naughty Dog et il n'a pas d'autre chose prévue dans le jeu vidéo à l'heure actuelle. Ouais.
Après en anglais, en particulier en anglais américain, quand tu dis retirement, ça ne veut pas forcément dire retraite. Hein, ça veut dire il s'en va de Naughty Dog. A priori, ce n'est pas le moment d'annoncer ses projets suivants s'il en a, mais ça ne veut pas dire que le mec il disparaît à tout jamais.
Il est jeune, donc je pense qu'il peut encore faire d'autres choses. Peut-être qu'il a juste plus envie parce que j'imagine que bon, financièrement, il peut se permettre d'arrêter de travailler, tu vois. Mais ce sera intéressant. Et donc c'est Neil Druckmann qui était déjà qui avait déjà une tête à la direction, qui reprend officiellement le rôle de
il était déjà co-président et là du coup il devient président tout seul entre guillemets en attendant l'éventualisation. Sachant que Evan Wells a annoncé son départ, mais son départ sera effectif à la fin de l'année.
Oui, c'est ça, oui. Je l'ai pas précisé, mais effectivement, on départ à la fin de l'année. Donc,
et juste pour apporter une toute petite précision, c'est quand même une page qui se tourne un peu pour Naughty Dog, parce que Evan Wells, c'était le dernier membre de l'équipe dirigeante qui avait vraiment travaillé très très proche des fondateurs de Naughty Dog, donc Jason Rubin et Andy Gavin. Il avait repris la coprésidence juste après le départ des deux cofondateurs.
Avec Christophe Balestra.
Ouais, alors Balestra est arrivé après.
Ah, c'était après.
Il avait eu un autre coprésident qui n'est pas resté longtemps, qui restait que un an, et après il a été rejoint par Balestra. Mais lui, Evan Wells, vraiment, il avait travaillé de façon très étroite avec les cofondateurs. Et entre guillemets, c'est un peu le dernier grand représentant du Naughty Dog de l'ère PS2, historique. PS1, on va dire. Qui s'en va, et du coup, là, maintenant, on est vraiment entré dans... Enfin, on y était évidemment, à fond. On est vraiment dans la nouvelle ère, de Naughty Dog.
C'est clair. On lui souhaite, en tout cas, de se reposer, parce que je pense que Naughty Dog, c'est en termes de crunch et d'heures de travail...
Au bout de 25 ans de Naughty Dog,
tu dois être bien cramé, quand même, c'est clair. Black Panther, tiens, il va y avoir un jeu Black Panther développé par Electronic Arts. Ils ont monté un studio spécialement pour ça, très peu d'infos, à part que par rapport au discours que tu sens au communiqué, tu comprends que ce sera probablement en open world, le Wakanda en open world. Voilà, j'ai pas grand chose pas grand chose à dire. C'est un héros qui est plutôt intéressant, je pense, dans un jeu vidéo qu'on a quasiment pas eu. Donc à voir.
Et puis ce sera un jeu solo. Donc comme
ce sera un jeu solo, ouais.
Pour de vrai, Electronic Arts a compris la leçon, en fait, les jeux solo.
Exactement. Exactement. Pour terminer, alors c'est marrant parce que deuxième documentaire que j'évoque dans cette émission, Noclip, bien connu, qui fait d'excellents documentaires sur jeux vidéo. Il vient de sortir un making of d'1h30 sur Immortality. Immortality, le GOTY 2022, enfin selon mes dires, hein, mais très très grand jeu. Donc 1h30 de documentaire, ce jeu de Sam Barlow, avec beaucoup d'interviews, à la fois du casting, à la fois de Sam Barlow évidemment, mais pas que. C'est cool, c'est qu'il donne aussi la parole, par exemple aux deux filles qui sont occupées des costumes, des décors, qui sont ultra importants dans Immortality, à la productrice du jeu. Enfin voilà, il y a vraiment un melting pot de métiers qui est vraiment super cool. Donc documentaire passionnant à regarder sur la chaîne de Noclip, c'est gratuit et c'est vraiment hyper chouette. Là c'est vraiment vite fait, c'est parce que je voulais placer du Monkey Island, mais Monkey Island sort sur mobile, voilà, fin juillet. Donc je parle de Monkey Island, je parle de Return to Monkey Island, bien sûr, le dernier épisode en date. Donc c'est l'occasion ou jamais de le faire. Si vous êtes sur la route pour descendre dans le sud, là, hop, vous l'installez sur votre iPhone et puis vous pouvez vous faire une petite partie de Monkey Island. Florian, peut-être que ça va te parler, toi, une série de concerts Elden Ring qui a été annoncée. T'as un truc à dire dessus ou
Oui, non,
13 janvier, ça commence le 13 janvier à Paris.
Pour tout vous dire, voilà, je vais pas trop en parler par simple, comment dire, par simple déontologie, parce qu'il s'avère que le mec qui organise ça est un ami à moi, donc voilà, je vais pas trop commenter le truc. Mais donc effectivement, Overlook Events, boîte française spécialisée dans les événements de ce genre, qui a annoncé son partenariat avec Bandai Namco pour une série de concerts Elden Ring, dont la première date, tout simplement, aura lieu le 13 janvier au Grand Rex à Paris.
Ça a l'air d'être un truc assez, en plus assez, pas immersif, mais il y a des technologies assez intéressantes, que ce soit en termes d'image, d'éclairage, de lumière et tout.
Oui, c'est les shows un peu spectacle, son et lumière. C'est assez typique du genre. Hein. Voilà, c'est pas juste un orchestre sur scène qui joue. Alors, on peut considérer que c'est une qualité, comme on peut considérer que c'est un défaut. Ça, je laisse à chacun le soin de juger là-dessus. Mais oui, ça essaye d'être un truc un peu immersif qui va vraiment essayer de reconstruire un petit peu la narration du jeu, pas juste jouer la musique comme ça et puis merci, au revoir. À savoir.
Et enfin, pour terminer, parce qu'il fallait bien citer les copains, mais bon, ils ont quand même réussi leur coup, hein, ces petits coquins. 206 724 euros, c'est la somme qui a été levée au final par Origami à la fin de leur campagne de lancement.
Moi, j'ai mis que dalle. J'ai mis zéro balle.
Je sais, mais il y avait. Et je sais que tu étais très fier de dire que tu n'as rien mis. Il y avait quand même un JV Le Mag en plateau une fois ou deux là, pendant leur émission, parce que fallait faire un petit placement produit, tu vois. Mais voilà, donc très très belle réussite. Et ce qui est fou, c'est qu'au moment, ils ont fait un live qui a duré 4 ou 5 heures, je sais plus, pour la fin de la
Oui, j'y étais.
Tu y étais physiquement, tu y étais, toi, c'est vrai. Oui. J'étais avec Kevin et Kassim aussi, je crois, est passé.
Ouais.
Ils étaient loin d'arriver aux 200 000 euros et je me suis dit, non, mais ils vont pas y arriver. Et là, ils ont eu les 200 000 euros, mais genre à une demi-heure de la fin, quoi.
Ouais, enfin, quasiment fou, une heure avant. Non, ça, ouais, pour le ça. Coup, c'était pas ça trop une surprise, mais on se doutait bien.
C'est l'explosion typique des fins de campagne, en particulier quand en plus tu fais un événement comme ça. Mais
évidemment, très heureuse pour eux, bien sûr, évidemment.
275% de leur objectif. On rappelle peut-être quand même, parce qu'on ne sait jamais, Origami, ce que c'est. C'est donc c'est un média. Non, mais c'est vrai, parce que peut-être que c'est un média, un nouveau média jeu vidéo. Voilà, un nouveau média jeu vidéo en France qui est en train de se monter par d'anciens journalistes à la fois de chez Gamekult, de chez No Life, de chez JV aussi. Voilà, ouais. Héloïse qu'on salue, qui a bossé chez nous, et Gotoz aussi, notamment. Qui est bien connu, et ils veulent faire des nouveaux formats, dans le sens où ce sera pas un média qui sera lié à un site web, il y aura des vidéos sur YouTube, il y aura du Twitch, il y aura des choses sur toutes les plateformes aujourd'hui modernes, et la promesse est belle. J'espère que l'exécution le sera tout autant, mais franchement ça fait super plaisir.
Bah, a priori il y a pas de raison. Ouais, là ils vont passer leur été maintenant qu'ils ont l'air un petit peu sérieux auprès d'éventuels investisseurs ou d'éventuelles soirées, ils arrivent, oui, bonjour, voilà, on a fait 200 000 balles sur Ulule. Et là, d'un seul coup, les gens leur font, oui, bien sûr, oui, oh, c'est intéressant, votre projet.
Parce que s'ils étaient arrivés à poil en disant, bonjour, on voudrait lancer un site de jeux vidéo,
c'est ça.
Les gens auraient rigolé très fort.
Là, on sait que cet été, ils vont investir des locaux, monter le studio, les plateaux, enfin voilà, tout installer pour pouvoir commencer à produire du contenu à la rentrée. Voilà, et j'ai très 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 hâte de voir ce qu'ils vont faire. Oui, on rappelle, donc il y a Gotoz, il y a Sylvain Tasté, hein, Oupi, on le connaît un petit peu, Jika, tu te souviens, c'est un gars, tu vois, lunettes, cheveux, là, tu vois.
Oui, bien sûr,
c'est lui.
C'est un blanc brun barbu à lunettes.
Exactement. tu vois.
C'est vrai,
c'est Kevin, quoi. Il y a Kevin Sicurel Muguri, il y a Florian Velter et Louise Lindossier. Voilà, très 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 heureuse et j'ai très très hâte. Et oui, a priori... peut-être que s'ils ont une émission hebdomadaire, c'est ce dont ils parlaient, d'actu jeux vidéo, c'est pas impossible qu'il y ait des gens de Canard PC, de JV Le Mag, qui passent faire une petite tête de temps en temps. Voilà.
Toute cette accointance.
Oh, le copinage, c'est abominable.
Copinage et compagnie, ça me révulse.
T'as pas été invité, merde. Désolé.
Ah, mais moi, ça me scandalise. Même si j'avais été invité, j'y serais pas allé d'abord. Non.
Mais le truc, ce qu'ils disent aussi, enfin, moi, je me permets de parler, enfin, je veux pas parler à leur place, mais on connaît un petit peu leurs ambitions. Là, c'est facile de. Ils ont commencé par inviter, par parler des gens déjà connus, hein, genre, voilà, ma vieille tête, tout le monde. Mais ils veulent aussi, surtout, produire des nouvelles personnes, montrer des nouvelles choses. Ça, ils attendent d'avoir effectivement d'être bien installés pour pouvoir montrer un peu plus tout ce qu'ils ont envie de faire, mais il y a vraiment une ambition aussi de faire des nouvelles choses et de mettre le pied à l'étrier à des nouvelles personnes.
Exactement. On leur souhaite vraiment d'arriver à faire tout ça, parce que c'est super cool, ça fait plaisir.
Ouais.
Ah, eh bien, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça y est, c'est l'heure de conclure déjà. Finalement, c'est passé vite. Hein. Je serais bien resté un peu plus longtemps avec vous, mais là, l'heure tourne. Ça m'a fait très plaisir. Merci beaucoup d'être venus, Florian et Sophie. Pour merci finir, on fait la tradition. C'est où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet, mais pas que, parce que là, on est quand même sur la presse papier. Donc,
oui, peut-être globalement, Florian, si vous nous retrouvez surtout en kiosque, hein, quand même.
Sur les grottes de Lascaux, à titre personnel.
Ouais, vous levez vos petites fesses et puis vous allez chez votre marchand de journaux, hein, parce que ça se mérite quand même tout
c'est
ça.
C'est ça. Donc vous savez quoi, vous avez une minute chacun pour faire la promo de vos mags. On va voir et dire qu'en gros, ton mag est le meilleur que l'autre, hein, parce que c'est le but
oh
de l'émission.
Oh, mais non.
Je plaisante, bien sûr que non. Florian, bah, si tu veux commencer.
Nous, on ne fait pas de hardware.
Déjà, de toute façon, voilà, nous ne sommes pas vraiment concurrents, parce que moi, je suis surtout sur Canard PC hardware. Donc, bien sûr, moi, ce qui m'intéresse, c'est la technique, c'est le matos. Voilà, on a notre numéro d'été qui est sorti, qui est disponible depuis fin juin, avec une qui vous demande si, des fois, vous ne feriez pas une erreur en jouant sur Windows plutôt que sur Linux. Vous en doutiez de ça ou pas ?
Là, qu'est-ce que c'est ? Oh là là, vraiment ?
Je pose des questions, moi.
Ah ben non, je ne sais pas. Ben non.
Et ben voilà, et ben vous achetez ce magazine.
Alors, est-ce qu'il y a Game Pass sur Linux ?
Non, c'est ça qui est chiant.
Ben voilà. Bon.
Et voilà.
La réponse est donnée. Désolé. Achetez quand même le magazine. Hein. Achetez-le quand même.
Non, mais bon, voilà, une question. Une manière un petit peu aussi de simplement de montrer à quel point le jeu sur Linux a fait beaucoup, énormément de progrès ces dernières années, et c'est l'occasion d'apprendre des choses fascinantes sur comment ça marche un jeu, comment ça marche un système d'exploitation, tout ça. Et puis voilà, plein d'autres sujets évidemment dans ce magazine.
Et voilà,
je ne sais pas quoi dire d'autre.
Non, je vais conclure si tu veux. Bon, on rappelle que tous les articles de Canard PC Hardware sont aussi disponibles
absolument,
sur le site Canard PC.
Sur le site Canard PC.
Moyennant un abonnement absolument dérisoire de 50€ par an, je crois, un truc comme ça.
Voilà, pour 50€ par an, vous avez accès au site web de Canard PC avec tous les articles de Canard PC et de Canard PC Hardware. Rien que ça.
Et voilà.
Best deal in gaming. Non, ça c'est le Game Pass du coup, justement. Merde, excusez-moi, pardon.
On va croire qu'on est sponsorisé par Microsoft. Ça suffit. Très bien, merci Florian. Sophie, toi pareil, beaucoup de belles choses.
Numéro 101 de JV Le Mag actuellement en kiosque, il est tout frais, tout neuf. Numéro spécialité, on revient sur le Summer Game Fest, évidemment. La traditionnelle sélection des jeux mobiles de Christophe Butlet pour passer un été... justement à la plage, tout en restant un vrai gamer. Et on a aussi notre hors-série GameCube, qu'on est en train de finir, on est en train de bosser dessus, d'ailleurs il va falloir que je vous laisse, qui va sortir du coup toute fin juillet.
D'accord, mais écoute, celui-là j'ai hâte de le voir aussi.
J'y pense, j'ai totalement oublié juste un tout petit truc que je voulais rajouter par rapport
à Canard PC.
Pour l'abonnement online. On vient d'ailleurs aussi... de lancer une nouvelle formule entièrement online en mensuel à 5,50€ par mois. Donc si vous voulez simplement essayer rapidement, voir ce que c'est, voir si ça vous plaît, voilà, maintenant vous avez cette solution
sans
aussi
engagement.
Très économique, sans engagement évidemment, bon. qui est à choisir.
D'accord, donc là vous avez le choix. Donc abonnement à Canard PC, abonnement à JV, les hors-séries, tout ça. Vous avez de quoi faire cet été, c'est assez... qui fait
mais d'ailleurs,
plaisir.
Oui, Chika, tu as écrit un petit souvenir dans le hors-série GameCube.
C'est vrai. Ça devient une tradition maintenant. À chaque hors-série, j'écris un petit truc. Un petit truc sur mon rapport au sujet principal. Donc,
et plus tard,
je parle. C'est marrant parce que je tease. En fait, dans ce papier, je ne sais pas si tu as eu le temps de le relire déjà, mais je parle plus de la Dreamcast que de la GameCube. C'est très bizarre, mais j'essaie de faire le lien.
Hors sujet total, Jean Chébert.
Le rédacteur en chef ne m'a rien dit. Je lui ai envoyé, il m'a dit. Ok, très bien, merci, tu vois. Donc,
il a rien relu, putain. Bah, voilà, super. Bon, tu vas me faire le plaisir de me réécrire ça.
C'est ça, non, attends.
Mais plus tard, comme ça, on pourra sortir une anthologie, les meilleurs souvenirs de JK. Ta biographie, elle est déjà quasiment écrite dans les pages de hors-série de JV.
Tu allais faire de la thune sur mon dos, quoi. Super, merci. Bah écoutez, très bien, merci. Je me rends compte, pardon, avant de conclure, que j'ai oublié de remercier les producteurs de l'émission, quelque chose que je dois faire.
Bah oui, tant qu'à
parce
faire.
Parce que si vous voulez soutenir Patrick, c'est sur patreon.com/rdvjeux. Les producteurs de l'émission que je cite et que je salue fort de manière très chaleureuse, Claude Girel, Stéphane Grégory Sata et Steph Sinalco, merci à vous. Et puis maintenant, il est temps de conclure. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout dans cette belle émission, ce beau rendez-vous jeu. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ce ne sera pas moi, hein, mais vous aurez à nouveau un rendez-vous jeu à vous mettre sous la dent. Et sur ce, bah, gros bisous, bonnes vacances si c'est le cas, et à bientôt. Bisous,
au revoir.
Au revoir.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.